Oui, vous ne rêvez pas. En ce mardi, une revue de presse, une matinée tienne dans un océan de training intensif pour la Zilan. Voilà, c'est une chaîne gaming ici, vous le savez, bien sûr. Mais hier, entre deux renquêtes de Valorant, on m'a dit oui, mais quand même, par rapport à Marine Le Pen, la décision de justice, l'inéligibilité pour la prochaine présidentielle. J'ai dit quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est tombé. Ah, peut-être. Ah, ok. Alors, je me suis dit. Hein, donc, je me suis dit. Peut-être une petite pause dans mon quotidien de champion d'e-sport, quoi. D'athlète de haut niveau des jeux vidéo. Et je me suis dit, peut-être une revue de presse. Donc, ok. J'ai mis le réveil ce matin. Après une chouette soirée avec Henri Tran, d'ailleurs. Hier soir sur Valo. C'était rigolo comme tout. La petite compète qu'il avait organisée. Merci beaucoup, Rainbow86, pour le soutien. C'est adorable. Merci beaucoup, merci Codis, merci Sylvain. Et je me suis dit, oui, revue de presse ce matin. Ok, tout à fait. Donc, revue de presse, voilà. Normalement, il y avait une pause dans la revue de presse parce qu'il y avait Training Zilan. Voilà, puisque, vu d'où on part en termes de niveau sur les jeux vidéo, quelques semaines d'entraînement n'allaient pas être de trop. Merci Wolf King pour le cinquième mois d'abonnement, merci pour le soutien. Et puis là, on se rappelle de la date d'aujourd'hui. Hein ? Et oui. Parce que le jour, c'est mardi. Hein ? J'ai dit en ce mardi, revue de presse, mais le jour d'aujourd'hui, c'est mardi. Mais la date d'aujourd'hui, c'est quoi ? Merci de 77 Tsubasa pour l'abonnement offert à revue de presse. Et oui, c'est le 1er avril. Et donc, cette annonce de revue de presse sur la décision de justice qui conduit à l'inéligibilité de Marine Le Pen, est-ce une vraie info ? Est-ce une vraie annonce ? Ou est-ce une petite blagounette du 1er avril ? Non. J'ai vraiment lu les journaux. Non, c'est pas une blague. Je vais vraiment vous la faire. Non, c'est vrai. On fera une revue de presse. Bien sûr, on va en parler. Et puis après, d'ici 3-4 heures, on lancera un petit stream de gaming aussi. Après une petite pause d'une demi-heure, peut-être pour déjeuner. Pour finir l'après-midi en beauté. Voilà. J'étais prête à te marave, me dit Sarah. Non. Non, j'aurais pas osé. Non. J'ai vraiment hésité à faire cette revue de presse parce que je. Franchement, en ce moment, ma priorité est plutôt sur le training Zilan. Hein, c'est important d'être au rendez-vous qu'on s'est fixé. J'ai vraiment hésité. Et puis, la nuit, pourtant, conseil, comme je me suis levé assez tôt ce matin, je me suis dit non, revue de presse. Non, revue de presse. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, Samuel crée un nouveau compte sur Valo appelé Marinéligible. Joli. Non, on ne troll pas là-dessus. Il y a Tolkien Bazar qui est dans les starting blocks. Là, il est chaud, il est parti, il a fini son 100 mètres. Salut Samuel, t'as une question. Si elle fait appel, est-ce que l'appel peut annuler l'exécution de l'éligibilité en 2016? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'on est sûr qu'elle pourra pas se représenter? On va y aller doucement. On va lire les articles. On va prendre le temps. On n'a pas fait le sommaire que déjà il y a des questions. C'est bien. Vous êtes chaud comme la braise. Merci Alexiage, mon petit boys band préféré. Merci pour le soutien. Merci Renifleur de paix. Tu penses quoi de ce que dit LFI et de Mélenchon sur le fait que seuls les électeurs devraient pouvoir choisir de destituer un élu ? Calme. On y va. Ici, c'est Twitch. On n'est pas sur une chaîne d'infos en continu. Prenons le temps. On va lire les journaux. On va essayer de comprendre tout ça. On va d'abord se pencher sur les faits avant de rentrer un petit peu dans le débat. Tout ça. Là. Cool.
Cool. C'est ça que je cherchais. Cool, baby. Prenons le temps. C'est Twitch, baby. C'est bon. Chill. On a le temps.
J'ai appuyé sur les boutons sur ma table de mixage. Je savais pas qu'elle pouvait faire ça. J'ai découvert ça ce matin. Incroyable. Je viens de découvrir ça. Tu savais qu'elle pouvait faire ça, mais je savais pas sur quel bouton appuyer. Oui, mais je l'ai depuis toujours cette table de mixage, juste que je savais pas. Je savais bien qu'elle faisait des trucs un peu effets sur les voix, je savais pas comment. J'ai trouvé ça ce matin. Ah, j'en ai deux ou trois. Marrant. J'ai débloqué un truc, ouais. J'ai passé un nouveau palier. Joyeux anniversaire, ça. Non, c'est pas mon anniversaire. Mais c'est l'anniversaire de mon amoureuse, par contre. Ouais. Qui est née un 1er avril, et ça n'est pas une blague. Mon rêve, j'adore. Il y a Hunger. Ne me tente pas, Hunger. Hein. Mon rêve qui lance Valo et ne lit plus le chat du reste du stream. Oh, imaginez le Dark Sam ému, quoi. Imaginez. J'annonce une revue de presse. Je vous tease, je vous chauffe. Je mets vos papilles en émoi, vos papilles intellectuelles, vos papilles sociétales, vos papilles politiques. Et je lance Valo sans rien dire. Et je ne lis plus le chat pendant 3 heures. Dark Sam ému, Dark Sam ému. Salut Hiroshi. Première matinée tienne pour moi. Ouais, c'est cool, c'est très chill ici, tranquille. Merci pour l'anniversaire, Hélène, c'est gentil. Ouais, elle est née en 1er avril. Je fais découvrir ta chaîne à ma copine qui est ravie d'entendre ta douce voix en télétravail. Merci, Pifoc.
Tu veux dire, cette voix-là, c'est cette voix-là que ta copine est ravie d'entendre, c'est ça que tu veux dire?
J'adore ce truc, j'adore. Du coup, je vais en user, en abuser. Incroyable. C'est quoi ce truc? Je savais qu'il y avait ces boutons, je savais pas à quoi ils servaient. Et je sais pas, ce matin, j'ai changé de micro, j'ai mis le micro de la revue de presse. Je sais pas, appuyer mes doigts en ripé sur un truc. Et voilà, c'est appuyé sur ça. Ah. Un mot sur question pour un nul? Bah ouais, c'est une petite annonce que j'ai fait hier. Effectivement, question pour un champion. Une émission de télé qui existe depuis 37 ans. Waouh. Une émission de télé qui existe depuis 37 ans, question pour un champion, il faut qu'elle se renouvelle, il faut qu'elle invente des nouvelles choses. Il faut qu'elle évolue au niveau du règlement, des questions, de l'ambiance, tout ça. Et effectivement, alors c'est pas question pour un champion quotidien qui va changer, hein, c'est plus une... Là, on va faire une expérimentation, en fait. On va faire une émission spéciale ce soir pour voir si ça peut être éventuellement une récurrence, quelque chose qu'on peut faire de temps en temps, quoi. Non, je lis mon propre tweet, hein, j'aime me lire.
J'aime me lire.
Annonce. Après de nombreux DM, ça c'est pour les jeunes, mails les un peu plus anciens, courriers les plus vieux. Nous reprochons le niveau trop exigeant de questions pour un champion. Ouais, ça va trop vite. Est-ce que vous pouvez écrire les réponses en dessous quand vous les donnez? Parce que vraiment, on n'entend pas bien. Et puis, c'est quoi, ils sont trop forts. Nous avons décidé de tester un nouveau format pour l'instant, juste ce mardi soir. Questions pour un nul. Les points seront donc attribués de manière inversement proportionnelle à la culture des candidats. On inverse un peu le concept de questions pour un champion. L'expérience sera reconduite en cas de succès d'audience. Donc on tente le truc ce soir. C'est pas pour remplacer questions pour un champion, c'est pour faire peut-être une édition spéciale de temps en temps, ou une hebdo, ou une mensuelle, je sais pas. Il faudra trouver la bonne périodicité. Voilà, puis bon, il faudra que l'audience soit au rendez-vous aussi. Donc questions pour un champion, très beau jeu, très exigeant aussi. Voilà, et une formule plus accessible ce soir. QPUN, question pour un nul. C'est moi qui l'ai pensé. Merci Lilou, vous savez qui, pour le soutien. Merci encore Pifoc, merci Poum. Voilà. Non, c'est pas un poisson d'avril. Non. QPUN. Non, c'est pas un poisson d'avril. Non, 18h10 ce soir sur France 3. Voilà. Ce serait intéressant. Voilà. Avec des 4 candidats qui ont accepté de. D'essuyer les plâtres en quelque sorte. Non, faut pas. Un peu de second degré, hein, les gens qui vont venir jouer ce soir, c'est des gens qui estiment qu'ils n'ont pas forcément le niveau pour question pour un champion, mais qu'ils ont le droit de. Aussi, ils ont le droit de jouer. Donc voilà, un peu de second degré. Donc QPUN, question pour un nul, ce soir, 18h10. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait attention à la date. Par contre, 1er avril, c'est vrai que les gens peuvent penser que c'est une blague. Je vois hein, ceux qui parlent d'étoiles, là. N'oublie pas que j'ai le clic droit bandef très très rapide, moi. Je vois hein, ceux qui parlent d'étoiles, là. Je vous vois. Je vous vois. C'est du whisky chaud, comme d'habitude. Ah, ça vous fait rire, ça. Michel, c'est ma mamie, elle te regarde tout le temps, elle t'adore. Doudou, bah, tu feras un gros bisou à Michel. Michel, je sais pas si vous regarderez cette vidéo, mais je vous embrasse bien fort. Ouais. Bon, est-ce qu'on partirait sur une petite revue de presse? Puis il y aura du gaming cet après-midi, hein, parce que l'entraînement n'attend pas. Hein. Est-ce qu'on lance? Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, d'abord un petit sommaire. La revue de presse, elle va durer 3 heures, à minima. On commence par un sommaire pour ceux qui n'ont pas 3 heures à me consacrer, à nous consacrer. Et comme ça, vous avez l'essentiel de l'actualité en 5 minutes. On a beaucoup parlé de Marine Le Pen. Ouais. C'est parti? Voilà. Et donc, je vais prendre Gecko. Je vais installer Gecko. Il y a un petit peu d'actu. Salut Nicolas. Allez. Qu'est-ce qu'on a ce matin? Airbrand dit bonne chance aux modos. Non. Bonne chance à ceux qui vont se faire bandef parce qu'ils n'ont pas respecté les règles de cette communauté. Bandef par les modos. C'est pas bonne chance aux modos ici. Les modos, ils savent ce qu'ils font et ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est les meilleurs. Non, non, c'est bonne chance aux gars qui veulent jouer au malin et qui veulent pas respecter le respect, justement, le respect des autres. C'est plutôt ça. C'est bonne chance à ceux-là, hein, qui vont vite se faire mettre dehors à coups de pied dans le cul. Bah oui, eh oui, plutôt. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on a ce matin? Alors, effectivement, on a beaucoup parlé de cette dame-là. J'ai lu tous les journaux, bien sûr, ce matin, nationaux. J'ai trouvé que le dossier du Parisien, et on commencera par ce journal, était bien fait, était carré, était informatif. Il y avait tout, quoi. Complet. L'onde de choc, titre le Parisien ce matin. Marine Le Pen inéligible. Alors, il y a une possibilité d'appel, bien sûr. Mais en l'état actuel des choses, sans appel et sans décision plus favorable en appel, bien sûr, eh bien, Marine Le Pen, l'ancienne présidente du RN, puisqu'elle a laissé sa place à Jordan Bardella, est inéligible. Elle ne pourrait pas, en l'état actuel des choses, se présenter à la prochaine présidentielle. Sa condamnation lui barre la route de la présidentielle de 2027. Condamnation pourquoi? On va le voir. La députée RN fera appel, mais les délais sont très serrés. Ses partisans crient au déni de démocratie. Ce qu'on verra dans le chat ce matin, bien sûr. Voilà. Alors, on lira l'édito de Nicolas Charbonneau, qui est plutôt bien fait. Ce jour funeste pour Marine Le Pen. En fait, on lira tout le dossier du Parisien, parce qu'il est carré. Il est propre. Voilà, il y a un professeur de droit public qui se penche sur les accusations de gouvernement des juges, de scandale de démocratie parce qu'une décision de justice qui s'oppose au peuple, de ce pouvoir discrétionnaire des juges. Donc il y a un professeur de droit public qui dit ce qu'il en pense. On se penchera aussi sur les peines des autres, parce que Marine Le Pen n'est pas la seule condamnée. Les conséquences politiques aussi de cette décision, parce que pour beaucoup de candidats supposés putatifs à la présidentielle, eh bien, certains anticipaient déjà un deuxième tour face à Marine Le Pen et avaient parfois axer leur stratégie politique en fonction de ce futur deuxième tour. Alors si Marine Le Pen n'est plus au deuxième tour de la présidentielle, eh bien, les cartes sont en quelque sorte, nous dit le Parisien ce matin, rebattues pour la prochaine présidentielle. La chute de la favorite des sondages frappée d'inéligibilité pour 5 ans oblige ses concurrents à revoir leur plan. Eh oui, en vue du scrutin de 2027. Les réactions au sommet de l'État, qui manifestement n'avait pas du côté de l'Élysée et de Matignon anticipé cette décision de justice, ils n'y croyaient pas. Voilà, stupeur et embarras. Et puis les sympathisants, bah, eux, ils sont pas contents. Ouais. C'est vraiment dommage pour le RN. On lira aussi les réactions de ces sympathisants, de ces électeurs du RN. Bon, alors on va lire d'autres journaux. C'est sur le Parisien qu'on passera le plus de temps ce matin, parce que le dossier est carré. Mais on ira voir aussi le regard des autres journaux sur ce sujet, quoi. Coupable. Voilà. Étonnante photo d'ailleurs. Je pense que c'est une photo prise au tribunal, même si Marine Le Pen n'a pas attendu l'énoncé du jugement, elle est partie un petit peu avant. Je pense que c'est une photo prise au tribunal, petit gros plan, coupable, la une de Libé, donc condamné lundi pour détournement d'œuvre publique à 4 ans de prison, parce qu'on parle de la peine d'inéligibilité, mais 4 ans de prison, 4 ans de prison, dont 2 fermes pour Marine Le Pen. Donc je crois 2 ans fermes qu'elle va devoir purger avec un bracelet électronique, décidément, c'est très, on en voit beaucoup en ce moment, c'est très tendance. La leader d'extrême droite qui a fait appel voit l'Élysée s'éloigner un séisme politique. Ah oui, il y a ça aussi. Marine Le Pen en campagne contre la justice. Lundi, la chef de file du Rassemblement National a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Alors ça, on va en parler beaucoup ce matin de cette fameuse exécution provisoire pour détournement de fonds publics, puisque l'appel de Marine Le Pen n'est pas suspensif et donc... La peine s'exécute tout de suite, exécution provisoire. Et le débat porte beaucoup là-dessus. On verra ce matin, on prendra le temps de comprendre ça. Pourquoi les juges ont-ils décidé cette exécution provisoire, hein, et non pas laissé la possibilité à Marine Le Pen de suspendre cette peine avec un appel. Eh bien, on verra pourquoi les juges ont pris cette décision et pourquoi elle fait débat. Voilà, suspensif uniquement pour l'illégibilité, exactement. Décision historique et inattendue pour le RN. Ouais. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est la peine d'inéligibilité qui est sous exécution provisoire. Là, on est dans les titres, hein, donc je ne vous dis pas tout. Les titres, hélas, les titres des journaux ne sont pas complets. Hein. Souvent, on s'en désole ici. Un titre donne des infos, et puis évidemment, un titre de 4 mots ne résume pas un article de 1200 mots. Eh oui. Pour le tribunal, la condamnation d'une donneuse d'ordre. On verra pourquoi ce jugement, qualifié de sévère par certains, pourquoi ce jugement est-il aussi sévère? Bardella prend les commandes de la PME familiale, oui. Bardella, quelles conséquences pour Bardella? Bien sûr, bonne ou mauvaise nouvelle. Bonne ou mauvaise nouvelle pour le RN tout court, d'ailleurs. Dans le Pas-de-Calais, des électeurs RN remontés, mais pas résignés. Là aussi, on a des réactions d'électeurs. Alors, il y a ceux ce matin qui disent, je vous lirai quelques éditos, qui disent « Non, c'est très bien cette décision. La loi est la même pour tous les citoyens. » Et les juges ont eu raison, d'abord de sanctionner les responsables du RN qui avaient fauté, hein, détournement d'argent public, on verra pourquoi, et ont eu raison d'être aussi sévères, notamment sur l'exécution de la peine d'inéligibilité. Voilà. Et puis d'autres, et je vous lirai l'édito de Nicolas Bétou là-dessus, ne sont pas d'accord, et j'avais envie de comprendre pourquoi certains estimaient que ce n'était pas une bonne chose. Voilà. Donc ça, c'est Nicolas Bétou, notamment, qui parle carrément d'un grand moment, d'un moment de grand danger démocratique. Ouais. Ouais, Workos dit que c'est pas le même pour le Premier ministre. Oui, François Bayrou, lui aussi, a mis un bémol, c'est intéressant. Bon, après, François Bayrou qui a mis un bémol, François Bayrou, quelque part, qui a besoin des voix des députés RN pour que son gouvernement ne saute pas. Donc ça n'est pas une immense surprise qu'il soit pas... qui ne disent pas son enthousiasme à cette décision de justice, parce qu'en quelque sorte, il essaye de ménager un petit peu le RN. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer à l'Assemblée dans les prochains jours, d'ailleurs. Lacroix n'est pas du tout dans le camp de ceux qui critiquent cette décision de justice. Au contraire, la justice sans exception. La justice sans exception. Hein, c'est l'édito de Lou Besmond de Senneville, ce matin, qui se réjouit de cette décision. Oui, Mélenchon aussi, Jean-Luc Mélenchon aussi a émis un gros bémol. Et on essaiera de comprendre pourquoi. Je vous lirai les articles là-dessus sur la position de l'AFI de Jean-Luc Mélenchon, qui ne souhaitait pas que la justice prenne cette décision, hein, d'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité. On verra pourquoi, avec quels arguments. Ouais. Pourquoi le jugement est si lourd, ça me semble intéressant, Lacroix. Et voilà un éclairage du Figaro, justement. Embourbé dans une même affaire, par ailleurs, LFI ne se réjouit pas de la condamnation. On se penchera là-dessus. Voilà. Alors, grosse revue de presse, enfin, consacrée pour l'essentiel à cette décision de justice concernant Marine Le Pen et d'autres responsables du RN. Mais il y a d'autres choses dans l'actualité aussi. Le monde ne s'arrête pas de tourner. On en est où de l'Ukraine? Moi, c'est une question que je ne veux pas oublier. À chacune de mes revues de presse, quasiment, je fais un point. N'oublions pas que nous avons cette guerre qui se poursuit... pas très loin de nos frontières. Vladimir Poutine, maître du double jeu, estime le Parisien, hein, puisqu'on se souvient que Américains, Ukrainiens s'étaient mis d'accord sur les conditions d'un cessez-le-feu, que Trump avait essayé de mettre la pression sur Poutine, le président russe, pour qu'il signe à son tour ce cessez-le-feu et que les canons se taisent en Ukraine. Et, oh, surprise incroyable, pour l'instant, Poutine ne veut pas. Alors ça, c'est très étonnant. Rappelons que le président Trump avait, pendant sa campagne électorale, annoncé que il allait mettre fin à cette guerre en 24 heures non, ou 48 heures, je ne sais plus. Et bon, ça dure un peu. Voilà. C'est très étonnant. Poutine ne veut pas obéir à Trump. Face à un Trump pressé de décréter la paix en Ukraine, le président russe temporise et multiplie les faux-semblants. La Maison-Blanche s'impatiente. Voilà. Énorme surprise. Hein. C'était énorme surprise. En tout cas pour Trump. Alors Trump, de temps en temps, prenons des nouvelles du président américain. Alors... salut, Itéfi. Oh, Itéfi ! Oh oui, Itéfi était avec nous hier soir. Ça va, Itéfi ? Hier soir, Henri Tran avait organisé une super compétition Valorant très très drôle où tour à tour des viewers venaient défier 5 bronzes en 1v5 avec d'abord un fer, un bronze, un silver, un gold, etc. Et là, on a Itéfi qui était l'immortal hier et qui a fait une très belle partie, qui était avec nous. Donc, Trump. Trump qui envisage un troisième mandat. Et là, vous allez me dire, parce que vous connaissez un petit peu l'actualité et les bases de la Constitution américaine, mais Samuel, c'est une blague. Un président américain ne peut pas faire 3 mandats aux États-Unis. Enfin, ça n'est jamais arrivé, c'est interdit par la Constitution. Et alors ? C'est pas parce que c'est interdit que la Constitution dit que c'est interdit que c'est pas possible, nous dit Trump. Voilà. Et Trump, il dit, non, mais moi, mes partisans me disent que ce serait une bonne idée. Donc, je suis en train de réfléchir à comment faire un troisième mandat. Non, mais c'est interdit, c'est pas possible. C'est par rapport à... Chut ! Voilà. impossible n'est pas Trump. Exactement. Il suffit de changer les règles du jeu, exactement. Ouais, ou jouer un petit peu avec les règles, quoi. Donc, on va se pencher là-dessus. Trump envisage un troisième mandat et hausse le ton contre Poutine. Oui. Guerre commerciale également. Ça, c'est un sujet un peu sec, mais que je trouve passionnant. Vous savez que le président Trump, toujours lui, a décrété une guerre commerciale, hein, estimant que l'économie américaine était maltraitée par les économies asiatiques, européennes, etc. Il a décrété des droits de douane qui ont provoqué également des réactions. Et le Monde consacre un dossier à ça. Mercredi 2 avril, baptisé Liberation Day par Donald Trump, doivent entrer en vigueur les droits de douane réciproques qu'il a décidé. Donc c'est demain, hein, le 2. Cette loi du talion marquerait la fin du système économique mondial bâti après 45 sur un principe de non-discrimination entre pays riches et pauvres. Ces bannières douanières vont redessiner la carte du commerce international, rien de moins. Le PIB mondial va faiblir. Les marchés boursiers sont d'ores et déjà fébriles. À Bruxelles, les industriels européens veulent convaincre la Commission et les États membres de les laisser en dehors de cette guerre commerciale. Les grands patrons français, d'abord séduits par les initiatives pro-business de M. Trump, s'alarment aujourd'hui de son protectionnisme. Voilà. Rage quit. Ah tiens, Le Pen ne fait pas la une ici. Ben, c'est pas mon problème si t'es à la bourre. Hein. Ça a commencé il y a 28 minutes, mon chouchou. Hein. Fallait être là. Hein. Fallait être levé plus tôt. Hein. C'est quoi cette no-life, là ? C'est incroyable, ça. Encore la team de JL Tommy, ça. C'est incroyable, ça. Non, on est en plein sommaire, mon chouchou. Marine Le Pen, on y arrive dans un instant. Voilà, l'onde de choc mondiale, c'est la une, c'est la une du monde. Et Tommy, c'est mon pote, hein, dont j'ai le droit de me moquer de sa commu. Hein. C'est mon poteau. D'ailleurs, je vais peut-être vous annoncer un truc tout à l'heure là. Je vais peut-être vous annoncer un petit truc tout à l'heure à ce propos, mais je ne dis rien. Je n'en dis pas plus. Et puis une dernière chose, c'est une initiative de certaines chaînes de télévision en France contre le cyberharcèlement. Notamment TF1 et M6, pourquoi ? Des déferlements de haine en ligne à l'encontre de participants d'émissions de télé-réalité, hein, comme la Starac ou Pékin Express, ont poussé les chaînes à réagir, mais combattre ce fléau n'est pas simple. Alors cyberharcèlement, moi j'ai en tête le procès des cyberharceleurs d'Ultia, il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Sauf que le cyberharcèlement ne vise pas que des créateurs de contenu, des créatrices de contenu, mais aussi des candidats d'émissions de télé-réalité, Starac, Pékin Express, et donc TF1 et M6, qui sont les chaînes qui diffusent ce type de programme, essayent de voir comment ils peuvent lutter contre ça. Il y a notamment Ebony, hein, la candidate de la dernière saison de la Starac, là, qui a été victime d'attaques racistes sur les réseaux sociaux. Et alors TF1 dit, bon, bah, ça va pas être possible. Quoi. TF1 et M6, donc ils sont en train de bosser sur le sujet. Je trouvais que c'était intéressant aussi d'en parler ce matin. Enfin, ça témoigne d'une prise de conscience Et on n'a peut-être pas les solutions, mais on essaie de voir comment on fait, quoi. Ouais, les jumelles dans Pékin Express aussi, ouais. Tout à fait, ouais, exactement. Je peux vous dire. Je peux vous dire que si un jour, il y a des gars qui sont prêts à des candidats de questions pour un champion. Attendez, il faut que je vous lise un. Où est-ce que. Attends, j'ai reçu un mail comme ça. Il y a des fous à lire. Hein. Attends, attends, j'en ai un qui est fou. Je l'ai pas. En général, je les supprime celui-là. Celui-là, attends, j'en ai un, c'est un champion. Attends. Attends, attends, j'en ai un. Un mail de téléspectateur. Il y a des fous. Attends, attends. Où est-ce que je l'ai mis celui-là? Attends, faut que je vous le retrouve, il est insane. Ah, je l'ai. Attendez. Je vais. Bon, je masque l'identité de l'auteur de ça, parce que le pauvre. Oh, j'ai tellement de peine pour ce monsieur. Monsieur! Bon, il s'appelle. Voilà, je donne son prénom, il s'appelle Daniel. Peut-être qu'il nous regarde. Monsieur! C'est un mail que j'ai reçu. Je ne regarde qu'occasionnellement l'émission Question pour un champion. T'as envie de lui dire, regarde plus. Eh, hey, Daniel, regarde plus. Mais j'avoue avoir été étonné par le peu de connaissances de vos candidats, dont une femme prénommée. Donc là, il cite une candidate dont je ne donnerai pas le prénom. Dont une femme prénommée. Au physique très désavantageux. Mais ferme ta gueule, Daniel! Je me suis tellement retenu de ne pas répondre à ce gars, tu vois, pour lui donner de l'importance. Ne réponds pas, ne réponds pas. Ça commence comme ça, le mail. Dont une femme prénommée au physique très désavantageux, hein, waouh, qui a gagné la cagnotte sans faire preuve de culture. Donc la dame au physique très désavantageux a gagné la cagnotte, c'est-à-dire 5 victoires d'affilée sans faire preuve de culture. Daniel, viens jouer. Tu vas pas buzzer une seule fois. Tu vas pas me donner une seule bonne réponse, mon pruneau. Et ça continue. Sur France 2, le candidat qui est toujours en lice depuis plus de 2 mois, à un autre niveau que, il cite encore la personne, qui ne vaut pas tripette. Chouchou, l'émission dont tu parles, c'est une émission. J'ai beaucoup de respect pour ce candidat qui est très brillant et que j'ai déjà croisé. C'est une émission qui favorise le champion, c'est-à-dire qui le protège. C'est une émission qui est faite pour que le champion dure longtemps, parce que c'est bon pour les audiences. Mais évidemment, tu ne comprends rien à tout ça, Daniel, parce que t'es con comme une buse. Et attends, et il signe. Il signe, donc Daniel, hein, journaliste presse écrite, comme quoi, hein, il y a des journalistes ils sont pas aidés. Hein. Parce qu'après, il me donne son CV. Alors, sa signature, c'est un CV. Daniel, journaliste presse écrite 1979-1923, chroniqueur sportif dans 9 radios, mais pourquoi pas 18, chanteur, danseur, comédien et musicien amateur, romancier, ceinture noire de karaté. C'est des mails que je reçois, les gars. Virgule, pratiquant le tir au pistolet. Oh merde. Bon, si les gars, s'il m'arrive un truc dans les prochains jours. Touk, touk, touk. Et la self-défense. Animateur sur les chaînes de télévision locales. Alors, l'émission s'appelle Question pour un champion. Et là, je pense qu'on a un champion, quoi. Mais voilà. Bon, alors, des comme ça, je ne reçois pas tous les jours, mais je reçois. Hein. Ces gens existent. Ces gens. Non, non, c'est pas du tout. Non, 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 non. C'est pas un 1er avril. C'est un mail que j'ai sous les yeux, là. Envoyé par Daniel, dimanche 30 mars à 19h32. Non, 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 ces gens existent. Ces gens existent, les gars. Ces gens existent. Alors, je reçois. Ils sont. Tous les mails que je reçois sont pas du même acabit, mais ça existe. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et t'as des mecs qui font du tir. C'est des mecs qui font du tir, manifestement, du tir en salle, quoi. Donc ça, c'est un mec qui est possiblement a un gun à la maison, quoi. Eh ouais. Voilà. Vis mon quotidien de. Et moi, je me retiens pour de pas répondre, hein, à des mecs comme ça. Je me dis, mais en fait, non, non, ça lui donne trop d'importance, quoi. Mais je voulais partager ça avec vous parce que. Il y a quand même. Ça vaut son pesant de cacahuètes, quoi. Ah, j'ai une bonne boîte mail, ouais. Il y a un braqueur qui dit, je paierai pour voir ta boîte mail. J'ai une bonne boîte mail. J'ai une bonne boîte mail. Et encore, je suis un homme. Et encore, je suis un homme. Je pense qu'une animatrice, elle doit en lire des vertes et des pas mûres, quoi. Ouais, incroyable. Donc c'est Daniel, c'est Daniel. Mais en vrai, ça pourrait être un stream, ça, où je vous lis des mails comme ça, anonymisés comme ça. Ça pourrait être marrant, là. Ça pourrait être trop long, ouais. Mais en revanche, parfois, il y a des mails très intéressants. Daniel, t'es là, Daniel? Non, il n'y a pas faute d'orthographe. Ah non, le mail est très bien écrit. Non, il n'y a aucune faute d'orthographe. Est-ce que vous êtes prêt pour la revue de presse? Bande de beaux gosses?
Est-ce que vous êtes prêts? Bande de beaux gosses.
On y va? Est-ce que tu reçois des déclarations d'amour coquines? Non. En vrai, non. Jamais. Jamais, jamais. Enfin, si, mais ça vient de pays lointains et et puis c'est pour demander mon IBAN et faire des gros virements, quoi, tu vois. Mais non. Mais je reçois pas de déclaration caliente! On est prêt pour la revue de presse, on y va? Let's go? Allez, let's go. Ah. Marine Le Pen, inéligible. L'onde de choc, la une du Parisien ce matin. Sa condamnation lui barre donc la route de la présidentielle de 2027. C'est vrai que c'est un petit tremblement de terre dans le paysage politique français, le PPF. Mais les délais sont très serrés. La députée fera appel, mais les délais sont très serrés. Ses partisans crient, eux, au déni de démocratie. Lisons ce papier et après on en parlera tranquillement. Édito de Nicolas Charbonneau. Édito, c'est un article où le journaliste donne son avis. Une médaille, dit Nicolas Charbonneau, qui s'interroge. Et si la justice venait au fond de rendre le plus grand des services au RN et plus largement à la droite dure. Deux hypothèses. D'abord, qui peut croire un instant que la tentation du vote RN puisse disparaître du jour au lendemain à la faveur d'une décision de justice qui devrait probablement empêcher Marine Le Pen de se présenter en 2027? Bon, qui pose la question, d'ailleurs, j'ai envie de dire, à Nicolas Charbonneau. Quand 10 millions de Français votent coup pour coup aux européennes et aux législatives pour son programme. En fait, cela surtout pourrait faire se transformer en atout pour Jordan Bardella. S'il était candidat à sa place et formait pourquoi pas un ticket avec Marine Le Pen, lui à l'Élysée et elle à Matignon. Où il n'est pas nécessaire d'être élu. Élu, c'est vrai. C'est vrai que. En atout. J'ai dit quoi en atout? Non, pas en atout, pas en. Non, en atout. Pas là, non, pas la youtubeuse. Non, pas en atout. L'atout n'a rien à voir avec Marine Le Pen, enfin. Qu'est-ce que. Vous êtes fou. Donc pourquoi pas? Un ticket, Jordan Bardella à l'Élysée et Marine Le Pen à Matignon. Ça n'empêcherait pas Marine Le Pen, en quelque sorte, d'arriver au pouvoir, quoi. Comme ils sont quand même très 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 proches, politiquement. Ouais. On a vu par exemple comment Donald Trump avait fait de son procès une tribune pour s'adresser. Pardon, je remonte un petit peu en instant, hein, en avant. La condamnation du RN vaut presque une médaille, d'où le titre de l'édito, aux yeux de ceux qui considèrent que le système les empêche d'accéder au pouvoir. On a vu par exemple comment Trump avait fait de son procès une tribune pour s'adresser à son électorat renforcé. Hein. Je ne suis coupable de rien, je suis innocent. Hein. Ce sont les méchants juges qui me veulent du mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le système veut m'empêcher d'arriver au pouvoir. Pourquoi? Parce que je veux votre bien à vous et que ces gens veulent votre mal. Hein. Voilà. C'est waouh. Mais ça marche. Parce que après, c'est élu, quoi. Et puis il y a une deuxième hypothèse, celle qui ouvre un boulevard à Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur, à la faveur des Français, qu'il estime seul capable de répondre à leurs besoins de sécurité. Il était ce week-end encore dans un sondage IFOP pour le JDD, le mieux placé pour la présidentielle, côté LR devant Laurent Wauquiez. Il pourrait alors siphonner une partie de l'électorat du RN, qui trouve Bardella un peu jeune, encore un peu vert, à tous ceux qui seraient tentés de dire à Retailleau « Oui, mais vous n'avez jusqu'ici obtenu aucun résultat au sein du gouvernement. » Lui pourrait toujours répondre « Oui, mais moi je n'ai pas été condamné. » Bon, première analyse, est-ce que cette condamnation va profiter au RN en propulsant Bardella sur le devant de la scène, ou au contraire profiter à ceux qui ont un discours dur sur la sécurité, sur l'immigration, comme par exemple Bruno Retailleau. Mais je trouve qu'on anticipe un petit peu. Penchons-nous sur les faits, penchons-nous, c'est ça qui est le plus intéressant ce matin, sur le pourquoi de cette condamnation, le contenu de cette condamnation et le pourquoi de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Sa condamnation ce lundi, dont elle fera appel, s'applique immédiatement, et ça c'est une surprise, parce que beaucoup pensaient que les juges n'allaient pas prendre cette décision. De quoi rendre la route vers la présidentielle de 2027 hypothétique. Vous la voyez ici, à la sortie. Elle n'a pas attendu la fin du procès pour sortir. Hein. Elle n'a pas attendu le jugement, elle est sortie pendant l'audience. Une décision politique. C'est donc ce qu'a dit Marine Le Pen hier soir sur TF1. Invitée au JT de TF1 ce lundi soir, Marine Le Pen n'y va pas par quatre chemins pour dénoncer sa condamnation. Le matin même, pour détournement de fonds publics, hein, je pense que vous le savez, on va se pencher sur précisément ce que ça veut dire, à 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité, hein, qui est la peine la plus dure, évidemment, pour un homme ou une femme politique, ne pas pouvoir se présenter à une élection pendant 5 ans, avec exécution provisoire dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Pour la faire super courte, pour ceux qui n'ont pas le background, la justice reprochait à Marine Le Pen, et enfin au RN, d'avoir utilisé de l'argent européen, hein, de l'argent public européen, destiné à payer des assistants parlementaires pour toute autre chose. Voilà. D'avoir détourné cet argent à hauteur de à peu près 4 millions d'euros, effectivement, pour toute autre chose et qui n'avait rien à voir avec le travail des assistants parlementaires européens. Évoquant un jour funeste pour notre démocratie et notre pays, elle fustige une violation de l'état de droit qui pourrait l'empêcher de concourir à la prochaine présidentielle. Je suis éliminé, mais ce sont des millions de Français qui sont éliminés aussi, a-t-elle dit. Voilà. A priori, elle va faire appel. Aucun juge ne peut interférer dans une élection aussi importante que la présidentielle. Donc sa position, elle, c'est que, comme elle est candidate à la prochaine présidentielle, aucune décision de justice ne devrait pouvoir l'en empêcher. C'est aussi ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il dit que c'est pas... Il dit que c'est ce... Bricot disait, elle prenait l'inéligibilité à vie il y a quelques années de cela. Il ne faut pas l'oublier, c'est vrai. Il y a quelques années là, lors d'un débat sur un texte de loi, elle avait plaidé pour l'inéligibilité à vie. Elle l'avait demandé. C'est vrai. Mais plus maintenant. Plus maintenant. Et Jean-Luc Mélenchon est sur cette position. Il dit que ce n'était pas la justice d'empêcher un politique de se présenter à une élection. Quoi qu'il ait fait. C'est aussi sa position. Aucun juge ne peut interférer dans une élection aussi importante que la présidentielle. Fait-elle valoir, assurant que la juge, la femme, qui a reçu des menaces et qui bénéficie de patrouilles renforcées aux abords de son domicile, ce qui est un petit peu ennuyeux, n'aurait pas motivé sa décision. Marine Le Pen dit que la juge n'a pas motivé sa décision. Pour le coup, c'est totalement faux. Et pourtant, devant la 11e chambre correctionnelle lundi matin, la présidente Bénédicte de Pertuis a longuement motivé son jugement. Elle a même prévenu, ça va être un petit peu long, a dit la juge, hein, parce que l'affaire est complexe, il n'y a pas de volonté de maintenir le suspense, mais de donner des explications utiles à la compréhension de cette décision. On a compris que l'enjeu dépasse la salle d'audience. Et nous, on va prendre le temps de comprendre un petit peu. 150 pages de délibéré ? Ah oui. Donc, Marine Le Pen dit, elle n'a pas motivé sa décision, la juge, et là, vous me dites 150 pages. Le jugement, donc, implacable, la place dès 2009... au cœur, Marine Le Pen, d'un système de détournement de fonds publics par son père, mis en place par son père dès 2004, Jean-Marie Le Pen, pour alléger les charges du parti. Okay ? Donc, système mis en place par son père, mais auquel elle n'a pas mis fin, et auquel, dont elle a profité. Organisation, je cite les juges, familiale, artisanale, fondée sur des contrats fictifs d'assistants parlementaires d'eurodéputés, hein. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, dit la justice. Il y a, hein, parce que parfois, il y a une époque, en France, je le dis souvent, la vie politique française a été extrêmement assainie au niveau du financement. Il y a eu plein de lois ces dernières décennies pour assainir financièrement, enfin, l'aspect financier de la vie politique, pour qu'il y ait le moins de caisses noires possibles, de sous de table sur les marchés publics. Voilà. Il y a eu des condamnations, d'ailleurs, qui ont fait beaucoup réfléchir les politiques. Et donc, régulièrement, je vous dis, la vie politique française, sur un plan financier, elle est beaucoup plus saine qu'elle n'a été. Parfois, quand je dis ça, les gens me disent « Ah, qu'est-ce que tu racontes ?» La décision qui vient de frapper Marine Le Pen est une illustration exactement de ce que je vous dis régulièrement, que globalement, cette vie politique est en train de s'assainir grâce à la justice, enfin, grâce aux législateurs qui votent des lois pour assainir cette vie politique sur l'aspect financier. D'abord le législateur et ensuite le juge qui applique cette loi. Le juge ne fait qu'appliquer la loi. Alors, pas d'enrichissement personnel, même si c'est un peu plus compliqué que cela, mais des salaires que le parti n'aurait pas pu prendre en charge, que le RN n'aurait pas pu prendre en charge, et un confort de vie de ses dirigeants, tacle le jugement. Donc pas d'enrichissement personnel, mais des salaires payés avec un argent qui n'aurait pas dû servir à ça, qui a quand même participé à un certain confort de vie de ses dirigeants. Donc pas d'enrichissement personnel, mais les proches, les amis ont quand même profité de jobs avec de l'argent qui ne devait pas servir à ça. Voilà. Donc, pas d'enrichissement personnel, mais indirect, oui. Au total, ce sont plus de 40, soyons précis, 40 contrats, 40 contrats de travail, signés par 11 eurodéputés pour, hein, les chiffres, 4,4 millions d'euros pendant 12 ans. Voilà. La juge annonce que le prononcé d'une peine d'inéligibilité, alors là on est sur l'autre aspect, la juge annonce que le prononcé d'une peine d'inéligibilité apparaît nécessaire, ok. Vient la question de l'exécution provisoire. Est-ce que cette peine doit s'appliquer tout de suite? C'était le grand débat. La présidente relève que la question d'empêcher Marine Le Pen de concourir à la présidentielle se pose d'une façon singulière dans une décision rendue au nom du peuple français. Donc, elle dit qu'elle a bien conscience des conséquences politiques de ça. Elle applique le droit, elle applique la loi, mais elle dit « j'ai bien conscience que ça a des conséquences politiques ». Elle n'est pas aveugle, quoi. De toute façon, il y a tellement eu de déclarations politiques avant le procès, c'est que je ne vois pas comment elle n'aurait pas pu être au courant. Mais elle poursuit, l'égalité devant la loi est un pilier de la démocratie. Les élus ne bénéficient d'aucune impunité. La proposition de la défense de laisser les électeurs trancher revient à revendiquer un privilège. Donc elle désamorce le procès qui est en train de se passer en disant que c'est un déni de démocratie qu'un juge empêche une personnalité politique de se présenter devant les électeurs et que seuls les électeurs peuvent décider finalement de son sort. La juge dit non, l'égalité devant la loi est un pilier de la démocratie. Les élus ne bénéficient d'aucune impunité. La proposition de la défense de laisser les électeurs trancher revient à revendiquer un privilège. La juge dit les juges ne sont pas, les politiques ne sont pas des privilégiés. Voilà, devant la loi. Ce sont des Français comme les autres. Outre le trouble majeur à l'ordre public qui impliquerait le fait que soit candidate à la présidentielle une personne déjà condamnée en première instance, la juge évoque le risque de récidive. Et là, on est sur la raison pour laquelle la juge a estimé qu'il fallait rendre cette décision d'inéligibilité de l'appliquer immédiatement. Pourquoi ? Parce que pour la juge, il y avait un risque de récidive. 10 ans après les faits, toutes les personnes poursuivies contestaient, hein. Disaient non, c'est pas vrai, on n'a rien fait de mal, quoi. Impunité revendiquée de façon continue au mépris de la loi, ce système de défense, considère la juge, révèle une conception peu démocratique de l'exercice politique. Le risque de récidive est donc objectivement caractérisé. En gros, elle dit Marine Le Pen et ses amis n'ont jamais reconnu les faits, et donc si je ne la rends pas inéligible, il y a de fortes chances que ça va se poursuivre, quoi. Le risque de récidive est donc objectivement caractérisé, juge le tribunal qui annonce que la peine d'inéligibilité sera donc exécutée immédiatement. Marine Le Pen a compris que son destin politique vient de basculer. Sans atteindre la fin de la lecture du jugement, elle quitte la salle. Donc s'ils avaient été honnêtes, elle n'aurait pas eu cette peine. Alors, le problème fait des bois, c'est qu'ils n'ont pas été honnêtes. Hein. C'est pour ça qu'ils ont été condamnés. Elle quitte la salle, donc elle n'a pas attendu la fin du jugement. Vous voyez quand, tous ces arguments... la juge les apréchote. Chucky Bond, il est aligné là-dessus. Les juges sont fous, ils décident à la place du peuple. Voilà. Donc Chucky Bond nous dit, un politique sort du cadre de la loi, commet un délit ou un crime, et il ne doit pas être jugé, il ne doit pas être condamné. Hein, c'est tout. Seul le peuple peut décider au moment des élections. Donc le politique a le droit à un traitement de faveur. Voilà. Bah, le juge n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Le juge n'est pas d'accord avec ça. Continuons cet article. Le parti a donné, donc le RN a donné à ses troupes des instructions sur la communication, notamment de refuser de répondre à cette question. Est-ce que Jordan Bardella, par exemple, est le plan B assumé du RN? Mais ça, on va le développer après, le cas Bardella. Voilà, Bardella, donc le président du RN, hein, parce que c'est l'actuel président, a lancé une mobilisation populaire et pacifique via une pétition en ligne avec une campagne d'affichage et de tractage. Voilà, un député RN se désole un petit peu, c'est bien sympa, mais il faudrait réfléchir un peu plus. Voilà, 56 ans de vie politique, Marine Le Pen débranchée d'un coup, c'est forcément un peu violent. Et après, on va se pencher sur ce qu'en pense un professeur de droit qui s'appelle Mathieu Carpentier. Je vous lis un petit peu. Alors. Alors, certains relèvent effectivement que c'est amusant de voir des gens qui souvent critiquent le laxisme de la loi. Oui, la loi n'est pas assez dure. On empêche les juges d'appliquer la loi. Et que ce sont les mêmes aujourd'hui qui appellent finalement au laxisme, en disant non, les juges appliquent la loi, c'est un scandale. Ce sont les mêmes. C'est vrai. C'est vrai. Il y a Shamster qui dit bonjour Samuel, je m'appelle aussi Samuel Etienne pour de vrai, c'est mon anniversaire aujourd'hui, tout est véridique. Bonjour Shamster, c'est peut-être vrai, mais tu dis ça un 1er avril. Mais bon anniversaire quand même. Est-ce que tu peux zoomer sur la caricature, s'il te plaît, Samuel? Non, le dessin n'est pas terrible. Alors, je peux pas tout vous montrer, mais on y passerait notre vie. Bon, enfin, je vais lire l'article, peut-être qu'à un moment tu vas. Zoom avec tes petits yeux. Alors, qu'en pense Mathieu Carpentier, qui est professeur de droit public, sur ce sujet? C'est précisément professeur de droit à Toulouse 1, Capitole, Mathieu Carpentier. Il est politologue, il est historien. Marine Le Pen condamnée à une peine donc d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire, qu'est-ce que ça signifie? L'inéligibilité est une peine complémentaire. Quant à l'exécution provisoire, on parle d'une dérogation au principe général en matière pénale selon lequel une décision n'est pas exécutoire tant qu'elle n'est pas définitive, c'est-à-dire en cas d'appel ou pouvoir en cassation. Voilà. Normalement, une décision n'est pas exécutoire, c'est la règle, tant qu'elle n'est pas définitive. Voilà. Et s'il y a appel ou cassation, eh ben, elle n'est pas définitive. Mais là, l'exécution provisoire, c'est une dérogation à ce principe général. Marine Le Pen a annoncé son intention de faire appel, donc normalement, la peine d'inéligibilité ne devrait pas être effective. Mais dans ce cas précis, si. Voilà. Elle redevient de facto présumée innocente, mais ça ne change rien sur la peine complémentaire d'inéligibilité. C'est là où il y a débat d'ailleurs. Certains disent OK pour la peine, voilà, mais moi ce qui me choque, c'est l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité. Certains débattent de ça. Jean-Luc Mélenchon semble dire ça notamment. On verra tout à l'heure ce que dit Mélenchon. On peut imaginer que si le procès en appel est audiencé avant la prochaine présidentielle, cette question sera à nouveau âprement débattue. Sur quels critères se prononcent les juges? Alors cette prérogative n'est pas spécifiquement encadrée, dit le professeur, elle relève du pouvoir discrétionnaire des juges. L'exécution provisoire remplit l'objectif d'intérêt général qui s'attache à l'effectivité de l'exécution d'une peine et à la prévention de la récidive. Dans le cas de Marine Le Pen, on pouvait penser que ces risques étaient inexistants, mais le tribunal a souhaité faire une sorte d'exemple. La décision n'est inédite, il y en a certains dans le passé qui ont déjà eu ça, ni contraire au droit, mais surprenante, dit-il. Le professeur de droit dit, en vrai, le risque de récidive de Marine Le Pen était quasi nul sur ce sujet. Bon, vu que les magouilles avaient été mises au jour, donc lui, il semble dire que finalement, cette décision n'était pas inévitable. Elle n'est pas contraire au droit, dit-il, mais il estime qu'elle est surprenante. Et il estime que le juge a voulu faire un exemple. Quelles conséquences pour Marine Le Pen? Elle va être démise de son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais. Mais elle pourra achever son mandat de députée. Le Conseil constitutionnel considère que l'exécution provisoire ne s'applique pas aux mandats nationaux en cours, jurisprudence du Conseil. Mais la conséquence la plus importante est qu'en l'état, ça l'empêche de concourir au prochain scrutin présidentiel. Alors, passage intéressant. De nombreux politiques dénoncent un prétendu pouvoir des juges contre la démocratie. Et certains en parlent dans le chat. Quelqu'un disait tout à l'heure, bah, c'est Chucky Bond qui est toujours là d'ailleurs. Voilà. Qui continue et qui dit, oui, c'est scandale que les juges puissent condamner un politique. Quoi. De nombreux politiques dénoncent un prétendu pouvoir des juges contre la démocratie. C'est une inquiétante petite musique qu'on entend depuis un moment. On voit des décideurs politiques voués aux gémonies des décisions et leurs auteurs. Cela produit un climat passablement délétère qui aboutit à faire peser dans l'esprit de nos concitoyens des soupçons injustifiés sur la justice. Ce qui ne peut que nuire à la qualité de notre état de droit. On a le droit d'être circonspect face à l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité prononcée contre Marine Le Pen, donc lui-même ne cache pas être circonspect. Mais cela n'en demeure pas moins une décision prise par un tribunal impartial et indépendant. Toute tentative pour jeter le discrédit est non seulement illégale, mais contraire à nos principes. C'est marrant parce que ce professeur de droit, lui, il est plutôt OK pour dire que cette peine d'exécution provisoire, cette peine d'inéligibilité appliquée tout de suite, c'était pas forcément obligé. Voilà. Mais après, il dit le juge, il juge en toute indépendance, il fait ce qu'il veut. Alors, rapidement, rappelons que Marine Le Pen n'est pas la seule condamnée. Le parti lui-même est condamné. Hein. Le RN, à la fois bénéficiaire des détournements de fonds à hauteur de 4,4 millions d'euros, instigateur du système pour alléger les finances du parti, est condamné, lui, à une amende de 2 millions d'euros, dont 1 million d'euros avec sursis et la confiscation de 1 million saisi pendant l'instruction. Outre Marine Le Pen, Valérande Saint-Just, ancien trésorier Saint-Just, ancien trésorier du parti, 2 ans dont un enferme. 50 000 euros, amende, 3 ans d'inéligibilité. Les experts comptables, Nicolas Crochet, 3 ans dont 2 avec sursis, 100 000 euros d'amende. 3 ans d'inéligibilité, exécution provisoire, interdiction d'exercer. Charles Van Hout, 18 mois avec sursis, 2 ans d'inéligibilité, exécution provisoire. Voilà. 8 autres anciens eurodéputés du RN condamnés pour détournement de fonds publics au préjudice du Parlement européen. Bruno Gollnisch, Louis Alliot, etc., etc. Et les anciens assistants parlementaires écopent également de peine allant de 6 mois de prison avec sursis à 12 mois avec sursis et 2 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Voilà. Donc voilà pour... les autres. Les conséquences politiques de tout ça. Les cartes rebattues pour la prochaine présidentielle, la chute de la favorite des sondages, frappe d'inéligibilité pour 5 ans. Rappelons qu'il peut encore y avoir appel, et en appel, la justice peut dire autre chose. Hein. Je trouve qu'on évacue très très vite ce scénario. Alors c'est très serré en termes de délai, mais c'est possible. En tout cas, la chute de la favorite des sondages frappée d'inéligibilité pour 5 ans oblige ses concurrents à revoir leur plan en vue du scrutin de 2027. Un choc aux innombrables secousses, la candidate aujourd'hui la mieux placée dans les sondages pour l'Élysée a donc été condamnée hier. Et voici les cartes rebattues en vue pour 2027. Qui sera sur la ligne de départ? C'est encore plus difficile à anticiper qu'avant. Avec Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, 3 fois candidate déjà à la présidentielle et double finaliste, apparaît comme l'une des rares certitudes. Fatalement, si Marine Le Pen est empêchée de se représenter, cela veut dire que l'élection sera différente de celle imaginée pour l'instant. Chaque prétendant à la prochaine présidentielle avait en effet bâti une stratégie en imaginant une compétition, voire même un second tour, avec Marine Le Pen. À l'instar de Jean-Luc Mélenchon, hein, qui avait théorisé la stratégie du « eux contre nous » après le macronisme. Les insoumis et les marinistes s'affronteraient irrémédiablement, c'est ce qu'avait théorisé Jean-Luc Mélenchon. Le tribun avait ainsi passé des heures à l'observer en débat sur un plateau télé ou sur sa tablette connectée, se préparant un jour un affrontement avec une adversaire retorse lors d'un second tour à la présidentielle. Elle récite ses fiches, vous pouvez faire ce que vous voulez, elle n'en a rien à faire, confie-t-il, il y a quelques années. L'hiver dernier, Jean-Luc Mélenchon prédisait encore le scénario d'une élection présidentielle anticipée où ses adversaires se nommeraient Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Lequel, selon Jean-Luc Mélenchon, chercherait à contourner la règle des 2 mandats consécutifs. Il était loin à l'époque, Jean-Luc Mélenchon, d'imaginer que Bardella, Jordan Bardella, puisse devenir l'adversaire numéro un. Dans les rangs de LFI, le jeune président du parti d'extrême droite n'était pas pris au sérieux, jugé peu solide. Bardella, c'est une buse. Tranchait crûment il y a quelques mois un cadre de LFI. Il n'a rien dans le crâne. Comme le RN, le mouvement mélenchoniste est visé par une information judiciaire sur des soupçons de détournement de fonds publics au Parlement européen qui n'ont pas encore été jugés. Exactement ce pourquoi Marine Le Pen vient d'être condamnée. Voilà. Pas sur les mêmes montants, hein, des montants beaucoup moins importants, mais LFI est visée par une information judiciaire. Il n'y a pas procès encore, hein. Ce n'est qu'une information judiciaire, mais pour les mêmes faits. Les partis politiques vont maintenant devoir ausculter les forces et faiblesses du plan B du RN. Hein. La personnalité de Marine Le Pen n'est pas celle de Bardella, juge un cadre macroniste. Du haut de ses 29 ans, il n'a pas l'épaisseur pour mener une campagne. On l'a vu aux législatives, il a du mal à tenir la longueur. C'est un avantage pour Gabriel Attal s'il se lance. On ne pourra pas lui faire le reproche d'être trop jeune. Les politiques aujourd'hui qui méprisent, qui se moquent de Bardella, qui évoquent sa jeunesse ou sa faible épaisseur politique, ont oublié quelque chose d'essentiel. C'est les électeurs qui décident. Et alors moi, ces jugements un peu lapidaires, là, c'est une bonne nouvelle pour les opposants du RN parce que Bardella n'a pas l'épaisseur, il est trop jeune. Je pense que ces gens oublient très très vite que ce ne sont pas eux qui décident et que ce sont les électeurs, quoi. Voilà. Si les électeurs du RN estiment que Bardella a l'étoffe suffisante pour devenir président de la République, en formant par exemple un ticket avec Marine Le Pen qui serait à Matignon, c'est les électeurs qui le décideront, quoi. Ça me fait doucement rire. Au-delà du casting, c'est le climat politique qui change. Cela va amplifier de la frustration, de la colère, de la sidération pour des millions de citoyens, estime Christophe Béchu. D'ores et déjà, le RN alerte contre un dévoiement de la démocratie et prépare sa riposte. Il va dénoncer un gouvernement des juges avec un côté complotiste, craint un député EPR. Donc je vais me prendre un petit coca. Et on enchaîne avec les réactions au sommet de l'État, parce que manifestement, l'Élysée n'avait pas anticipé cette décision. Bougez pas. Je viens de me prendre un petit Coca-Zéro, réservé notamment, normalement aux invités de Ça me plaît, mon émission du dimanche soir sur les jeux vidéo. On est, donc c'est réservé aux invités. On n'est pas loin d'un détournement. Alors pas de fonds publics, c'est pas les fonds publics, mais moi je dirais d'un abus de bien social. Donc je me moque, mais on n'est pas tout blanc ici non plus. Hein. Voilà. Bon, après, cette revue de presse s'inscrit aussi dans l'exercice. C'est l'un des exercices de ma société. Et donc, finalement, est-ce que le juge ne sera pas clément en disant « Oui, alors c'était le coca qu'initialement vous destiniez aux invités, mais vous l'avez consommé dans le cadre de votre revue de presse sur Twitch, qui est aussi l'une des activités d'autres sociétés. » Donc, non, j'estime qu'il n'y a pas abus de bien social. Bon, ça, on verra. Mais je voudrais le signaler quand même pour être tout à fait... carré avec vous, quoi. Hein ? Voilà. Ça, c'est frais pro, ça. Bah oui. Hein ? Alors, moi, j'apprends ce matin que l'Élysée est surpris par cette décision de justice. Au sommet de l'État, stupeur et embarras. Revient un petit article. Article de Pauline Thévenot. Une certaine sidération s'est emparée du sommet de l'État ce lundi lorsqu'est tombé le jugement à l'encontre de Marine Le Pen. « Je suis sous le choc !» lâche un stratège de l'exécutif. C'est fou ces stratèges qui ne voient jamais rien venir, moi j'adore. Sonné par la condamnation de la chef des députés RN pour détournement de fonds publics, blablabla, blablabla. Selon nos informations, le chef de l'État ne s'attendait pas à ce jugement, en tout cas pas à l'exécution provisoire de l'inéligibilité. Bah, ça montre que la justice est indépendante, déjà. Tandis que le sol se dérobait sous son éternel adversaire, avec une décision compromettant sa candidature, Emmanuel Macron enchaînait les réunions de travail. Ce lundi soir, il n'avait toujours pas réagi. Je ne crois pas qu'il ait réagi, hein. Dites-le-moi. Muret dans le silence, lui, sait la situation piégeuse. Motus, donc, la boule noire, tout ça. Quand bien même le Kremlin, Elon Musk, Viktor Orban et toute l'extrême droite européenne clamaient leur soutien à Marine Le Pen jusqu'à mettre en cause le fonctionnement de la justice et de la démocratie française. Toujours intéressant quand vous avez, quand vous avez le Kremlin, quand vous avez la Russie qui réagit à ça en disant que ça pose question sur l'indépendance de la justice. C'est intéressant les réactions. Hein. Elon Musk, qui a une conception de la démocratie qui est muskienne, le Kremlin, qui a une conception de la démocratie qui est poutinienne, vous avez Viktor Orban, qui a une conception de la démocratie qui est orbanienne, voilà. Et toute l'extrême droite européenne, qui a une conception de la démocratie aussi particulière, et ce sont eux qui estiment qu'il y a un problème. C'est intéressant de voir d'où ça vient quand même. Quoi. Quand on parle d'ingérence étrangère, voilà, que le Kremlin réagisse immédiatement, c'est glaçant. Ça veut dire quoi? Pour la prochaine présidentielle, ça alarme un ministre. Alors, soyons prêts, on sait déjà que la prochaine présidentielle sera clairement sous influence. Il y aura, parce que maintenant, c'est quasiment systématique, les grandes élections de tel ou tel pays sont toujours sous tentative d'influence d'autres puissances, quoi. Notamment via les réseaux sociaux. Quoi, les réseaux sociaux. Silence à ce stade, en tout cas à l'Élysée. Quant au garde des Sceaux Gérald Darmanin, il a finalement réagi sur X, sur Twitter, en toute fin de journée, en dénonçant les menaces proférées contre les magistrats, qualifiées d'inacceptables dans une démocratie et préoccupantes pour l'indépendance de l'autorité judiciaire. Bon, là, dans son rôle, il a raison. À Matignon, François Bayrou, qu'est-ce qu'il pense, Bayrou ? N'entend faire aucun commentaire, à ceci près qu'il a fait savoir par son entourage qu'il avait été troublé par l'énoncé du jugement, ce qui a été dénoncé à gauche comme une violation de la séparation des pouvoirs. Bayrou, il est dans le camp de ceux qui trouvent que la justice a été trop sévère. Moi, je l'analyse, mais je peux tout à fait me tromper, c'est une analyse très personnelle, que Bayrou a besoin des voix des députés RN à l'Assemblée pour ne pas sauter, pour que son gouvernement n'explose pas. Hein. Il vient de motion de censure, parce qu'il n'a pas de majorité. Et donc, je pense qu'en prenant avec cette prise de position, il essaye de ne pas ultra fâcher le camp RN, je pense. C'est mon analyse, mais elle peut être erronée. Entre prudence et embarras, les députés macronistes avaient, eux, pour consigne d'en dire le moins possible. Hein. C'est un sujet un petit peu brûlant, quoi. Voilà. Je vous lis un petit peu, puis on va lire des réactions des sympathisants du RN, parce que c'est important aussi de voir ce que pensent les électeurs, les sympathisants du RN de cette décision de justice. Salut Tomote, pardon, je vois beaucoup de messages, je lis pas tout le chat matin, je suis désolé. Je suis pas autant avec vous que d'habitude, mais là, j'essaie de comprendre ce qui se passe autour de cette décision. Merci Mirette pour le 26e mois. Merci Lewis, merci Jonathan, merci Weirdo, je remercie personne. Merci Alex Koub, merci Seoud, merci Nanjou. Ok, je remercie personne. Merci Toweli. Merci Oumaslan, merci le Bourrico, merci Yokez, merci Lilou, vous savez qui, je n'ai remercié aucun sub, je suis désolé. Merci Jonathan. Merci Vorose Dénier. Alors, les sympathisants du RN. Vous savez que moi, c'est mon positionnement, mais moi, j'aime entendre ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Si on reste dans une bulle à ne discuter qu'avec des gens qui sont d'accord avec vous, ça mène pas très très loin. Je pense que votre cerveau s'endort et surtout c'est extrêmement dangereux parce que quand les gens ne se parlent plus dans une démocratie, c'est là que naissent, que peuvent naître d'extrêmes tensions. Donc moi j'aime bien avoir le sentiment et entendre et écouter de façon apaisée les gens, même qui, quand ils sont absolument pas d'accord avec moi. C'est ce qu'on essaie de faire ici, quoi. Merci Sakir, merci Suzuka, merci Pascador. Alors qu'est-ce que pensent les militants du RN? C'est vraiment dommage pour le RN, disent-ils. Je doute qu'il y ait beaucoup de soutien du RN ici, tu penses pas? Si, si, Jotaka, il y en a. En tout cas, je pense qu'il y en a plus ici que sur pas mal de chaînes Twitch, parce qu'ils savent qu'ici, même si je suis pas d'accord avec eux, ils peuvent s'exprimer. Du moment qu'ils s'expriment correctement, mais ça, c'est un cadre que je donne à tous. Ceux qui pensent, dont les valeurs sont proches des miennes comme les autres, voilà, on s'exprime correctement les uns envers les autres. Et je pense qu'ici, il y a des gens qui votent RN et qui savent que moi, ça ne me hype pas, mais qui savent qu'ici, ils peuvent venir en parler. Voilà. Et ça me semble très important. Alors, qu'est-ce que pensent les sympathisants du RN? Dans le cœur de ville de Perpignan, les sympathisants du RN sont partagés entre la satisfaction absolue de cette belle journée de printemps et le coup de vent glacé des décisions de justice du tribunal correctionnel de Paris. Un peu de poésie. Un peu de poésie. Bon, ça c'est du blabla, tout ça on l'a déjà dit. Blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Les réactions qui m'intéressent, elles sont où? Ouais, c'est surtout au niveau du maire de Perpignan, là. C'est pas ça qui m'intéresse. Ah, Solange. Pour elle, cette décision est totalement antidémocratique. Et elle assure que Marine Le Pen doit pouvoir se présenter. C'est tellement gros ce jugement que cela ne peut pas rester en l'état. Je ne crois pas un instant que Marine ne puisse pas défendre nos couleurs et nos idées. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Solange ne conteste pas les faits. Elle ne dit pas le RN est innocent, le RN ne s'est pas rendu coupable de détournement de fonds publics. Elle n'est pas du tout sur le fond de l'affaire, ce qui est déjà intéressant. Je pense qu'une solution va être trouvée pour que la logique démocratique soit respectée, affirme Didier, un militant. De toutes les manières, si par malheur Marine était réellement empêchée, nous ne manquons pas de très bons candidats, Jordan Bardella, Marion Maréchal et même Louis Alliot. Dites à Marine Le Pen que Marion Maréchal va la remplacer à la présidentielle, je pense qu'elle va adorer. Et même Louis Alliot, puisque son jugement lui permet d'être candidat. Karine, cadre commercial. C'est tout de même grave qu'une candidate comme Marine Le Pen ne puisse pas représenter la présidentielle, le courant de pensée qui rassemble 11 millions de personnes. Alors on peut répondre à Karine que Marine Le Pen, a priori, ne va pas pouvoir représenter ces 11 millions de personnes, mais que rien n'empêche un autre candidat ou une autre candidate du RN de représenter ses idées. Hein. Ce n'est pas le RN qui est mis hors la loi. Je ne vote pas pour le RN, mais à la dire, je pourrais le faire, ajoute-t-elle encore. Serge, retraité, sympathisant RN, et lui... rassurer que Louis Alliot puisse poursuivre son mandat, parce que Alliot a été condamné, mais il peut poursuivre son mandat local. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que là, je ne vois pas de militants ou de sympathisants RN qui contestent les faits, en fait. Voilà. Je vous lis un petit peu. Je lis Renbong. Bonjour à tous. Les politiques sont toujours offusqués quand la justice se prononce sur leur délit à eux et demande la plus grande sévérité envers les citoyens courants. Nul n'est au-dessus des lois. Les politiques doivent être exemplaires. Ce n'est pas le cas. D'où le tous pourri. Il y a Pampan qui dit que cette condamnation a vraiment mis à genoux le RN. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que cette condamnation est un coup dur pour Marine Le Pen et un coup dur pour le RN. Mais je ne pense pas que cette décision soit en capacité de mettre à genoux le RN, comme tu le penses. Le courant de pensée représenté par ce parti, il existe toujours. Les millions d'électeurs, au nombre grandissant élection après élection, sont toujours là. Et ils vont sûrement trouver un candidat dans lequel... dans lesquels se retrouver, quoi. Un candidat ou une candidate. Après, jusqu'ici, le RN et hier le FN étaient des partis incarnés par des personnalités très très fortes et de la même famille. Bardella étant une grande nouveauté. Le FN, c'était le parti Jean-Marie Le Pen. Et avec une incarnation très très forte. Le RN, c'était le parti de Marine Le Pen. Donc là, c'est la Bardella, président du RN, c'est la première fois que quelqu'un hors de la famille Le Pen se retrouve à incarner la tête du parti, hein. Un Le Pen 100%, même si il peut y avoir des affiliations. Et donc là, il y a une dissociation de la progressive, surtout avec Marine Le Pen sur le banc de touche, du non Le Pen et du RN, quoi. Je vous lis. Hein. Oui, c'est ça, il est en couple avec une nièce, un truc comme ça, ouais. Mais c'est pas un Le Pen, quoi. Quelqu'un affirmait dans le chat que Bardella était une nièce de Marine Le Pen, je ne crois pas. Ou alors on nous a caché des choses. Voilà. Je pense qu'il manquait un mot. Je pense que tu voulais dire avec une nièce. Il était en couple, en plus, me dit Barberousse, qu'il y voici. Égala, moi je ne suis pas au courant de tout ça. Hein. Donc si ça se trouve, ça n'est plus d'actualité. On ne sait plus, on ne sait. Hein. Il est. C'est, ah mais bon, je vois que certains suivent la presse à People. Hein. Il était en couple avec une nièce. Bon. Enfin bon, moi ça m'intéresse pas trop. Twisted Art demande s'il était au courant au moins. Je pense que oui. Je pense. Oh bah, ça surprend. Alors, les unes de Libé, ça surprend parfois. Je ne m'attendais pas le gros plan. J'ai dû prendre un peu de recul. Coupable, titre Libération. Bon, Libération, journal de gauche, qui s'assume être un journal de gauche, évidemment, qui se réjouit plutôt, je pense, de cette décision. Lisons l'édito, peut-être, l'édito où le journal donne un peu son avis, finalement, sur ce sujet. Bataille, édito de Paul Quignot. Lisons. Un coup de tonnerre. La décision rendue par la justice dans l'affaire des assistants parlementaires du FN devenu RN au Parlement européen provoque sans surprise un séisme. Reconnue coupable et au cœur de la machinerie qui a permis au permis d'extrême droite de détourner plusieurs millions d'euros de fonds publics, Marine Le Pen ne sera peut-être pas candidate en 2027. Moi, j'aime bien le peut-être, parce que n'oublions pas qu'il y a une possibilité d'appel et que même si les délais sont serrés, c'est encore du domaine du possible. Donc j'aime bien le peut-être. La nouvelle, compte tenu de la qualité de la personnalité condamnée, est d'importance. La très probable absence de celle qui a trois candidatures présidentielles au compteur, deux fois qualifiée au second tour, qui était jusqu'à hier la candidate plus que probable d'une formation qui tient le haut du panier dans les sondages, est un événement majeur. C'est pour ça qu'on fait une revue de presse ce matin et qu'on n'est pas en entraînement idéal. Le paysage politique, c'est vrai, va s'en trouver chamboulé. Est-ce pour autant, se demande Libération, un scandale politique? Comme le cœur des soutiens de Marine Le Pen veut le faire entendre. Non, dit Paul Quignot, d'aucuns argumentent que la justice se serait substituée aux urnes, mais lundi, les juges n'ont pas condamné l'extrême droite, et ce courant de pensée que Libération combat ne sera en rien empêché d'être représenté en 2027. Foin donc du bâillon qui aurait prétendument été mis sur les débats d'idées, légitimes avant toute présidentielle. Ces débats auront lieu. À charge, bien sûr, pour l'extrême droite de s'accorder d'ici là sur une figure pour l'incarner. Quant au scandale judiciaire orchestré par un gouvernement des juges tous de gauche, forcément de gauche, partisan d'une justice politique, il est infondé, ce procès, dit Paul Quignot. Et faire ce procès à la justice est très dangereux. Les juges, rappelons qu'ils étaient trois à statuer, n'ont fait qu'appliquer la loi, respecter le droit, et il est assez cocasse de noter que ceux qui dénoncent une justice politique regrettent en réalité qu'elle n'ait pas été assez. Et les mêmes qui s'en prennent à longueur de temps au laxisme de l'institution judiciaire se sont empressés de critiquer sa sévérité. Je m'arrête, merci Luma, non c'est Libération Magic Monkey. Je m'arrête sur ce premier argument. Il est assez cocasse de noter que ceux qui dénoncent une justice politique regrettent en réalité qu'elle ne l'ait pas été assez. Ça c'est très intéressant. Est-ce que les juges ont pris une décision politique? En fait, qu'est-ce que dit Quignot? Il dit en fait non. Parce que si les juges avaient pris une décision politique, en fait, ils auraient ils auraient dû prendre le contexte politique en compte dans le cadre de leur décision de droit. Le juge applique le droit, lit la loi et estime s'il y a délit, s'il y a crime, s'il y a infraction. Et là, le juge, s'il a voulu prendre une décision politique, il aurait dit, alors cette décision de droit que je suis en train de prendre, elle va avoir une conséquence politique. Une conséquence politique qui va empêcher, a priori, Marine Le Pen de se présenter à la présidentielle. Donc, cette conséquence politique, moi, elle est hors de mon propos. Et donc, je ne vais pas prendre cette décision parce que je ne veux pas que ma décision de justice ait une décision politique. Ça, ça aurait été une décision politique, de prendre en compte le contexte politique. Or, le juge n'a pas pris en compte le contexte politique en disant le justiciable Marine Le Pen est injustifiable comme un autre et donc j'applique la loi. Voilà. Et donc Paul Quignot dit finalement ceux qui accusent les juges d'avoir pris une décision politique en fait accusent les juges de ne pas avoir pris une décision assez politique. Parce que s'ils avaient vraiment dû prendre une décision politique, ils auraient dû prendre le contexte politique en contexte. Bon, vous voyez ce genre d'argument. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est... ce sont les mêmes qui s'en prennent à longueur de temps au laxisme de l'institution judiciaire qui sont empressés de critiquer sa sévérité. C'est souvent dans les rangs des partisans du RN, vous avez des gens qui disent que la justice n'est pas assez dure. Et là, ces mêmes personnes disent que la justice est trop dure, en tout cas avec Marine Le Pen. C'est le signe que le droit, que la question du droit n'est pas leur boussole. Au-delà de l'avenir de Marine Le Pen, il s'est joué hier quelque chose de plus important, une bataille autour de l'état de droit. Elle n'a pas surgi de nulle part à la faveur d'une décision de justice. Le terrain y est propice depuis un moment, mais c'est bien dans les semaines ou les mois qui viennent, cette barre-là qui va se jouer en France, cette bagarre-là qui va se jouer en France, entre l'attachement des uns aux principes qui régissent le fonctionnement de notre démocratie, ou les faveurs des autres pour des régimes autoritaires, où le pouvoir politique pourrait chaque matin faire des bras de déshonneur à l'autorité judiciaire. Voilà pour l'avis de Paul Quignot ce matin. Moi, je trouve qu'on ne s'est pas penché assez, avec assez de précision sur le pourquoi de la sévérité de cette décision de justice. Et dans l'article de Libération qui suit, la page 3 et 4, il y a un petit peu des éléments pour expliquer pourquoi les juges ont pris une décision aussi sévère. Je vais à la fin de la page 3, là. La justice a conclu que Marine Le Pen était la principale commanditaire. La donneuse d'ordre d'un système structuré, optimisé, mis en place et piloté par elle dans sa quête de pouvoir, avec derrière la volonté de prospérer aux dépens de l'Union européenne, en utilisant de l'argent de l'UE, de ne laisser aucune miette des enveloppes destinées à embaucher des assistants parlementaires dans un contexte de difficultés financières du parti qu'elle dirigeait, nommé à l'époque le FN. Lors des réquisitions, le niveau d'implication de Marine Le Pen avait été décrit par le parquet comme triple. Tout passe par elle, tout revient à Marine Le Pen, la centralisation, l'arbitrage, la décision. Elle ne pouvait pas ne pas être au courant. Il ne s'agit en rien d'un accident, le truc dure pendant au moins 10 ans, ni d'une différence d'appréciation du règlement, mais bien d'une volonté de pomper le plus d'argent public possible. Les détournements s'élèvent à 4,4 millions d'euros, avec 40 contrats fictifs sur 3 mandatures européennes pendant 12 ans, rappelle le tribunal. Donc c'est pas, il n'y a pas eu erreur, il n'y a pas eu, ils n'ont pas mal interprété la loi, c'était sciemment, ils ont voulu pomper l'argent public européen pour l'utiliser pour autre chose. Voilà, la justice est très claire là-dessus. Dans ce système, arguait le RN, il n'y aurait pas d'enrichissement personnel. C'est un argument qu'on entend. Mais que dire des généreux salaires que le parti n'aurait pas pu prendre en charge sans cela, de l'enrichissement du parti, de l'enrichissement du parti, du maintien du très confortable train de vie des proches de Marine Le Pen, des primes de Noël données à Yann Le Pen, qui est la sœur de Marine, et de Catherine Griset, qui est une amie de Marine Le Pen, par le biais de faux contrats à durée déterminée faits pour épuiser les enveloppes européennes disponibles. Marine Le Pen, avocate de formation, pouvait-elle de bonne foi l'ignorer ? On va se pencher sur Jordan Bardella. Salut Mikoda, qui n'en regarde plus le Japon. Merci Sakir. Je vous lis, je vous lis. Samuel, si elle fait appel, n'est-il pas un risque que la peine soit plus lourde encore? Oui, si, sur quand on fait appel, on s'expose à une peine plus lourde. Aussi. Ce qui me fait peur, me dit Polo la Belette, c'est que cela ressemble de plus en plus à la situation américaine, avec des politiques qui refusent les jugements et des citoyens qui les suivent. Et on souhaite bon sport à Manchette qui est en train de faire sa séance de sport en nous écoutant. Bardella, alors est-ce que cette histoire, cette décision de justice, est une bonne nouvelle pour Jordan Bardella, rappelons qu'il est président du RN et que certains militants aimeraient d'ailleurs que ce soit lui qui, avant même la décision de justice, là, il y avait beaucoup de militants du RN qui estimaient que c'était Bardella qui devait représenter le RN plus jeune, plus moderne, sans le nom Le Pen, à la prochaine présidentielle, quoi, avec un profil moins repoussant pour une partie de l'électorat. Donc ça, c'est intéressant. Il prend les commandes, nous dit Libé, de la PME familiale, la peine d'inéligibilité, blablabla, propulse le jeune président du RN dans la course à l'Élysée, sans changement de ligne à l'horizon. Le destin des dauphins est-il toujours de s'échouer, comme le disait cruellement Jean-Marie Le Pen, de son successeur désigné Bruno Gollnisch? Très très drôle. Est-ce que le destin des dauphins est-il toujours de s'échouer? Bardella, ce sujet pourrait être fixé en 2027, propulsé au tout premier rang de l'extrême droite française par la condamnation de Marine Le Pen, le jeune député européen devient, sauf relaxe en deuxième instance de sa patronne, le candidat naturel du RN à la prochaine présidentielle. Pour le moment, le sujet de la passation de pouvoir est tabou. Salut Com, merci pour le prêt. À la question, Jordan Bardella est-il désormais le plan B assumé du RN? La boucle argumentaire frontisque s'est procurée Libé en juin de répondre par le déni. Voilà, pour l'instant, on ne répond pas à cette question. En tout cas, la promotion est vertigineuse. Pour cet enfant de Saint-Denis qui aura 31 ans au moment du scrutin suprême, il est très jeune, hein, qui n'a jamais exercé un métier de sa vie en dehors de la politique. Oui, je crois qu'il a en fait, il n'a fait que ça, c'est vrai. Et ne transporte aucun bagage universitaire autre que son baccalauréat. Bon, ça en soi, peut être très brillant et pas avoir de diplôme, hein. Je n'ai pas l'impression que dans chaque article sur un politique, on rappelle les diplômes des uns et des autres, quoi. Bon. Enfin bon. Libé le rappelle. Mais a porté par deux fois la liste européenne du RN à la première place et mené campagne pour devenir Premier ministre au dernier législatif. La marche se hausse de quelques crans. Il a fallu au moins deux présidentielles à Marine Le Pen pour s'enraciner profondément dans le paysage politique français. Bardella dispose de 2 ans pour s'élaborer une profondeur à laquelle ni son âge ni son tempérament ne le portent, car dans le règne animal, le jeune homme se rapporte moins au dauphin qu'au perroquet. Il l'aime pas trop, hein, Libéen. Et a moins l'étoffe d'un successeur que d'un luxueux porte-parole qui devrait continuer de réciter la leçon écrite par la vraie patronne. N'étant pas du genre à retourner bêcher son champ, Elle devrait pourtant continuer à être omniprésente dans sa formation politique. Il y a un petit peu de... Bon, clairement, Libé ne porte pas Bardella dans son cœur, mais il y a un peu de mépris, là. Voilà, moi, je pense que pour Libé, Bardella est un adversaire, hein, parce que Libération a des positionnements, des valeurs très, très loin, très éloignées du RN. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de sous-estimation de l'adversaire, là, qui est pas forcément une bonne chose, en fait. La semaine dernière en Israël, Bardella avait pu donner un aperçu du niveau d'autonomie de sa pensée en se tirant d'une altercation avec un Français juif qui lui reprochait l'absence de tout repentir de son parti sur la question de l'antisémitisme en répétant une phrase prononcée par Marine Le Pen en 2011 qualifiant la Shoah de summum de la barbarie. À l'époque, cette sentence avait permis à Marine Le Pen de se distinguer de son père pour qui les chambres à gaz, on s'en souvient, n'étaient qu'un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Elle écrivait là une nouvelle page de l'histoire de son parti. Rien de tel chez Bardella que la jeunesse, l'histoire personnelle et le parcours politique n'auront manifestement pas doté d'une réflexion personnelle sur la question, ni du courage ou de la volonté d'aller un peu plus loin que sa N+1, en ouvrant par exemple le début d'une autocritique sur une histoire dont il pourrait à bon droit ne pas se sentir comptable. Pas le genre de la maison. Bon, Libération reproche à Bardella de ne pas avoir de ligne propre, personnelle, politique, et de s'aligner systématiquement sur la ligne de Marine Le Pen. En même temps, comment peux-tu, pardon, hein, je ne suis pas avocat de Bardella, mais comment tu peux être président du RN dans un parti qui, en vérité, est dirigé par Marine Le Pen et tenter de s'éloigner de la ligne officielle de la patronne, quoi. Dans l'histoire du parti, c'est un parti familial, hein, le RN et le FNIR, dans l'histoire du parti, ceux qui ont voulu s'éloigner un petit peu de la ligne officielle, ils se faisaient très très vite écarter, quoi. Je ne crois pas que Jordan Bardella ait beaucoup le choix, quoi. Est-ce qu'il va prendre maintenant une forme d'indépendance? Oui, quand, comment, ça je ne sais pas. Mais ça me semble assez compliqué, quoi. À la tête du RN depuis presque 3 ans, le jeune homme n'aura pas imprimé sa marque propre, qui se limite en fait à l'utilisation des réseaux sociaux, un physique avantageux, mis en valeur par des costumes de bonne coupe et des clins d'œil répétés à la bourgeoisie libérale de droite, essentiellement charmée par le fait que Bardella n'est pas Le Pen. Pire, aux commandes de son parti, le président aurait failli à professionnaliser une machine qui a montré lors de la piteuse réalisation du plan Matignon, au moment de la dissolution, ses limites, impréparation des candidats, ça c'est vrai pour le coup, investiture de dizaines de profils racistes et antisémites sans vérification aucune, c'est vrai aussi, et absence de remise en question après la défaite. Là pour le coup, les critiques, elles me semblent justifiées. Si l'un des rôles de Jordan Bardella aurait été de préparer le parti à une prise de pouvoir avec des cadres ayant les épaules, là pour le coup c'est pas le cas aujourd'hui. On a vu aux dernières législatives, avec le profil de certains candidats qui se présentaient, que c'était un peu une catastrophe, quoi, avec des gens qui avaient été un peu recrutés en dernière minute et avec des profils qui étaient vraiment très 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 problématiques, quoi. Même le RN l'avait reconnu, d'ailleurs. Même le RN l'avait reconnu en disant que c'était ni fait ni à faire, quoi. Ça, c'est une vraie faiblesse du RN, d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, ils manquent de cadre, quoi. En gros, bon, aujourd'hui, Libération décrit un Bardella qui, malgré ses velléités d'indépendance sur certains sujets, notamment sur la guerre en Ukraine, n'arrive pas pour l'instant à affirmer sa ligne, une ligne un peu différente de celle de Marine Le Pen. Après, peut-être que ça va changer. Hein. Dractar, pour le coup, c'était le cas aussi pour La République En Marche. Ouais, mais enfin, ils avaient quand même les moins de candidats antisémites et racistes, il y a eu des problèmes avec la justice, quoi. Bon, c'est difficilement comparable. Ou qu'avec des photos sur les réseaux sociaux en costume nazi, quoi. Donc voilà pour Bardella. Alors, je vous dis, ce matin, il y a des Il y a des gens qui trouvent que la justice a eu raison d'être ferme. Il y a d'autres qui estiment que la justice est allée trop loin. Et c'est le cas de Nicolas Bétou. Nicolas Bétou, c'est le patron du journal L'Opinion, qui est un journal libéral, qui est un journal qui est très proche des entreprises. Et lui, il estime qu'on vit un moment de grand danger démocratique. Alors ça, c'est intéressant. C'est son avis. C'est pas l'avis de Lacroix, par exemple, qu'on lira juste après. Là, on va opposer deux regards. C'est intéressant d'écouter des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. C'est un bouleversement comme la politique française, on n'a pas connu depuis des décennies, écrit Nicolas Bétou. Deux fois finaliste à la présidentielle, patronne du premier parti de France en nombre de députés et forte des meilleures intentions de vote pour 2027, Marine Le Pen a vu sa trajectoire politique fracassée par le verdict de juge qui, au-delà de la sentence au fond, avait tout loisir de ne pas rendre immédiatement applicable sa condamnation à l'inéligibilité. C'est bien ce sujet, merci Darsaliot, qui pose question. En empêchant une des figures prédominantes du théâtre politique français de poursuivre sa carrière, la justice fait en réalité entrer le pays dans un mouvement de grand danger démocratique. Carrément. Comment éviter en effet que les millions de Français qui s'apprêtaient à voter Le Pen à la prochaine présidentielle ne s'estiment bernés par le système et ne se posent en victime d'une sorte de coup d'État judiciaire de magistrats politisés les privant de leur libre choix de citoyens? Comment empêcher que ce jugement, en nourrissant le populisme, ne vienne gonfler la colère sourde qui gangrène le pays? Comment ne pas voir avec quelle volupté, pardon, les pays faux amis ou ennemis de la France s'emparent de cette affaire pour critiquer nos valeurs et s'ingérer dans une façon de vivre la démocratie? Affaiblie par l'absence de majorité consécutive à la dissolution et par la surplace du gouvernement, la France aurait gagné à se passer de cet épisode judiciaire. Bien sûr, on entend les vertueux, les plaideurs, les dandins professer que la justice n'a fait qu'appliquer que la loi, que le RN a sciemment fraudé et que l'exemplarité exigée des élus ne doit pas être prise à la légère. Mais face au séisme que crée la décision du tribunal correctionnel de Paris, la vraie question reste: est-ce que la justice aurait failli à son devoir si, en prononçant les mêmes peines, elle avait rejeté l'exécution provisoire? D'évidence, la réponse est non. Donc, Nicolas Bétou, le libéral, estime que pour le climat politique français, il eût été plus malin pour les juges de ne pas décider l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité. Exactement, et Huxelles, je suis d'accord avec toi, Huxelles dit donc qu'il voulait une décision politique. Eh oui. C'est ce que, c'est, et oui. En fait, ceux qui estiment que c'est une décision politique, Nicolas Bétou estime que les juges n'ont pas été assez politiques. Nicolas Bétou finalement demande aux juges de faire quelque chose qu'ils ne doivent pas faire, c'est-à-dire de prendre une décision politique, prenant acte du climat politique très tendu en France, aurait dû décider de ne pas rendre inéligible immédiatement Marine Le Pen, sous prétexte que ça allait tendre encore plus les choses. Voilà. C'est intéressant. Donc, en fait, ceux qui disent les juges ont pris une décision politique, en fait, non. Nicolas Bétou dit les juges auraient dû prendre une décision politique. Et ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas pris en compte le contexte. Vous allez voir que Lacroix n'est pas du tout d'accord avec cette analyse. Hop, c'est ici. Merci Osiris de Fiche, merci Darsaliot, merci Tristouille, que j'ai pas remercié tout à l'heure, merci Com encore. Lisons. Lisons l'édito qui est totalement opposé à celui de Nicolas Bétou de Lou Besmont de Senneville dans La Croix, intitulé La justice sans exception. La condamnation de Marine Le Pen constitue à n'en pas douter un coup de tonnerre dans la vie politique de notre pays, tout le monde est d'accord. Et un choc à plusieurs titres, chez certains électeurs d'abord qui ne manqueront pas de reprocher au système d'empêcher leur champion d'accéder à la prochaine présidentielle. Chez les responsables politiques ensuite, qui constateront qu'un élu, quel qu'il soit, peut bel et bien se voir privé du droit de se présenter à une élection. Ne nous y trompons pas. La décision rendue par les juges ne constitue pas un acte politique, même si elle a incontestablement des conséquences dans le domaine politique. Il s'agit d'une décision fondée en droit, s'appuyant sur des textes votés il y a plusieurs années par la représentation nationale, qui n'avait sans doute pas imaginé à l'époque un tel scénario. C'est pourquoi il est inquiétant d'entendre Bardella aujourd'hui prétendre que la démocratie est exécutée, inquiétant d'entendre Jean-Luc Mélenchon assimiler cette décision à une destitution, inquiétant d'entendre Laurent Wauquiez juger pas sain qu'une élue puisse être interdite de se présenter à une élection. C'est marrant tous ces politiques qui s'inquiètent de voir la justice pouvoir interdire un politique ou une politique de se présenter. Jamais aucun d'entre eux n'évoque par ailleurs la faute commise par les membres du FN condamnés lundi, avoir pendant des années détourné des fonds européens pour financer illégalement le fonctionnement de leur parti. Il est pour moi paradoxal, écrit Lacroix, que ce soit ces élus, venant pour la plupart de partis défendant l'ordre, qui veuillent désormais se soustraire à la sévérité de la justice. Marine Le Pen est certes condamnée, mais son parti continue d'exister et pourra présenter en 2027 un candidat à la présidentielle. La grande popularité dans les sondages de la championne du RN ne l'exonère pas de respecter la loi. Au contraire, elle l'y oblige encore davantage. La justice s'applique à tous, sans exception. Si vous voulez mon sentiment, et ça n'est que mon sentiment, c'est-à-dire pas grand-chose, et prenez-le avec des baguettes, à la lecture des articles ce matin, moi j'estime qu'à long terme, cette décision de justice, qui provoque beaucoup de réactions, elle risque plutôt de créer du positif que du négatif. C'est-à-dire qu'à montrer que la justice, qu'on soit petit, qu'on soit puissant, qu'on soit citoyen, lambda ou politique, que cette justice s'applique à tous, finalement, c'est plutôt quelque chose de positif pour le climat général que négatif. Mais ça n'est que mon sentiment et il faut franchement le prendre avec des pincettes. À vous de vous faire votre opinion. C'est ça qui est important. Sarkozy récemment aussi, hein, avec son bracelet ou ses bracelets, non ? Oui, parce qu'il y a, un deuxième procès en cours là où il pourrait avoir un autre bracelet. Mais tu vois qu'il n'en a qu'un pour l'instant. Un ancien président condamné à une peine de prison ferme, certes aménagée avec un bracelet électronique, ça n'était jamais arrivé avant Nicolas Sarkozy. Donc, hein. Il fait la collection. Ben là, il en a un, mais je crois qu'il pourrait avoir un deuxième. Enfin, un deuxième, je ne sais pas si on en met deux. Mais il pourrait être condamné à nouveau, ouais. À moins que ce soit du ferme-ferme, quoi. Ouais, de Marine Le Pen, c'est un bracelet, ouais. Est-ce que, très bonne question de Stouk, tu ne penses pas, comme le disait le journal précédent, que ça va renfermer les gens dans leurs opinions? Attention, je suis bien content que la loi ait été respectée, mais est-ce que les débats ne seront pas encore plus sourds qu'ils ne sont aujourd'hui? Peut-être, mais on n'y peut rien, ça. Que les gens, à un moment, ne veuillent pas comprendre que c'est une décision de justice qui est fondée, et qu'ils veulent s'enfermer dans leur opinion du système, du gouvernement des juges, bah, c'est libre à eux de le penser. Mais on ne va pas demander aux juges d'anticiper sur la réaction populaire en se disant « Mais attends. Alors en fait, le droit nous commande de prendre cette décision, mais qu'est-ce que va en penser le peuple? Qu'est-ce que va en penser l'opinion? Est-ce que ça ne va pas provoquer des tensions ?» On ne doit pas juger en fonction du contexte. On doit juger en fonction de la loi. La loi qui a été décidée par les législateurs, les élus par les Français. C'est ça, c'est comme ça que ça doit se passer. On ne doit pas juger avec le doigt mouillé en disant tiens, le vent est plutôt par là en ce moment. Et ça, c'est ça, on sort de la démocratie, là. Hein, comme le dit Lazarette, à partir de quel pourcentage dans les sondages est-on au-dessus de la loi ? Donc voilà pour la croix. Alors pourquoi le jugement est si lourd? Moi, je vous avais mis cet encadré de côté, mais je crois qu'on l'a expliqué. Notamment le fait que la décision d'exécution immédiate provisoire de la peine d'inéligibilité a été prise parce que, notamment, les prévenus ont contesté les faits jusqu'au bout, quoi. Voilà. 10 ans après la dénonciation des faits, la défense conteste, en niant parfois jusqu'aux évidences, y compris les écrits de l'époque, ce qui démontre le peu d'intérêt pour la manifestation de la vérité et aucune prise de conscience de leur violation de la loi et du devoir d'exemplarité de la probité des élus. Sous-entendu, si Marine Le Pen et consorts avaient reconnu leur tort, hein, avaient fait amende honorable, avaient compris, merci aux voyageurs pour l'abonnement offert à Samuel Etienne, le BG, avaient compris le pourquoi du comment, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette exécution provisoire de la peine d'inéligibilité. C'est ce que disent les juges. Hein. C'est ce que disent les juges. Alors, la position de Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon, il est aussi sur cette ligne de dire, ça n'est pas au juge d'empêcher quelqu'un de se présenter à la présidentielle, même s'il a violé la loi. Éclairage du Figaro, embourbé dans une même affaire, LFI ne se réjouit pas de la condamnation de Marine Le Pen. Lisons. Jean-Luc Mélenchon a toujours fait de Marine Le Pen sa principale adversaire, ça vous le savez, celle dont il était persuadé qu'il l'affronterait d'ailleurs au second tour de la présidentielle de 2027. La condamnation à 5 ans d'inéligibilité avec blablabla rend désormais ce scénario quasiment caduc. Le chef des Insoumis n'a pourtant jamais souhaité l'élimination de sa concurrente par la voie judiciaire. Sur France 3, mi-mars, le troisième homme de la présidentielle 2022 avait encore déclaré qu'une inéligibilité immédiate, sans attendre le jugement appel, ne serait pas juste. Pour lui, pour Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas juste. Alors c'est étonnant parce que ça reprend les argumentaires des militants du RN. Dans un état de droit, dit-il, essayons de comprendre, tout le monde doit avoir le droit de faire appel. Si on le refuse à Marine Le Pen, alors ce droit sera refusé à tout le monde et ce serait une erreur. Nous prenons acte de cette décision de justice, même si nous refusons par principe que le recours soit impossible pour un justiciable, quel qu'il soit, confirme la France Insoumise dans un communiqué. Selon certains, ces principes moraux cacheraient d'autres inquiétudes chez les Insoumis. Leur parti est pris dans les mêmes affaires, souffle un député de gauche. Les ennuis judiciaires du RN viennent effectivement rappeler que plusieurs personnalités du mouvement mélenchoniste, dont Jean-Luc Mélenchon lui-même, font eux aussi l'objet d'une information judiciaire, on n'en est pas encore à un procès, hein, pour des soupçons de détournement de fonds publics et d'abus de confiance au préjudice du Parlement européen. Voilà, ce sont les mêmes faits. Alors pas à la même échelle, hein, pas pour les mêmes montants. Hein. Les faits avaient d'ailleurs été signalés par l'eurodéputée FN Sophie Montel en 2017. Un document de l'Office européen de la lutte antifraude datant de 2021 fait état de manquements, d'irrégularités concernant l'activité de deux assistants parlementaires de Jean-Luc Mélenchon, qui était à l'époque député européen. L'organe européen évalue le préjudice à un peu plus de 500 000 euros. 500 000 euros, on parlait de donc 4 millions et demi, je crois, pour le RN. Le dossier est toujours entre les mains du juge d'instruction en France. Hein, tellement quelqu'un disait dans le chat, mais pourquoi on n'enquête pas sur les autres partis? C'est le cas. C'est le cas. Hein, je crois que le MoDem de François Bayrou a également été poursuivi. Donc la justice fait son boulot. Mais le précédent créé par les condamnations de plusieurs cadres du RN lundi, et il y a un peu plus d'un an de plusieurs anciens élus européens de l'UDF devenus le MoDem, je vous en parlais à l'instant, pour les mêmes raisons, peut faire craindre le pire aux partis de gauche radicale. Hein. Vous avez des élus MoDem, hein, qui ont été condamnés sur ce même sujet. Alors pareil à une échelle pour des montants moins importants, mais quand même. La réaction de LFI jure avec le reste de la gauche qui a plutôt appelé à respecter la décision des juges. La justice est la même pour tout le monde. Sa remise en cause par des politiques qui prétendent aux plus hautes responsabilités est gravissime et dit beaucoup du peu de cas qu'ils font de l'état de droit, dit l'écologiste Marine Tondelier. L'eurodéputée socialiste Chloé Ridel a quant à elle jugé très grave le communiqué de LFI. Vous personnalisez l'enjeu, vous fragilisez notre justice déjà attaquée, a-t-elle riposté à l'insoumis Manuel Bompard. Il y a Cassé-Mati qui dit: je comprends pas pourquoi Jean-Luc Mélenchon plaide en faveur de Le Pen. Genre, si son opposant est éliminé, je suis trop content. Personnellement, non. Alors, si on ne pense qu'en termes de stratégie politique, on peut supposer que le pari de Jean-Luc Mélenchon, c'était d'arriver au deuxième tour. Et d'arriver au deuxième tour face à Marine Le Pen. Et d'estimer que le fameux Front républicain qui a empêché à plusieurs reprises Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen d'accéder au pouvoir, que ce Front républicain, même s'il s'est affaibli ces dernières années, vous le savez, lui aurait profité. Tout sauf le RN, donc on vote Jean-Luc Mélenchon, même si on n'a pas envie de Jean-Luc Mélenchon plus que ça. Voilà. Donc là, le fait que Marine Le Pen disparaisse, espèce de repoussoir pour une partie de l'électorat, ben pour le coup, il peut estimer que c'est moins bien, quoi. Après, encore une fois, le RN peut tout à fait être représenté par quelqu'un d'autre à la prochaine présidentielle. Alors, il y a Li Yonggi qui dit, en gros, il pense à sa gueule. Oui, comme tous les politiques. S'intéresser sincèrement au débat politique, c'est pas forcément être naïf. Tous les hommes et les femmes qui ont décidé de faire de la politique leur métier, leur travail, et d'en toucher leur revenu et leur salaire, bah, ils le font. Alors, ils le font. Je vais être très pessimiste. Quand ils sont jeunes, quand ils sont militants, ils le font pour les idées, pour les valeurs, pour. J'espère, enfin. Et puis plus tu t'installes dans ce métier qui est un métier, et plus je pense, tu le vis aussi comme une carrière que tu dois gérer. Après tout, tu ne sais faire que ça, et c'est ton métier, et tu t'es spécialisé dans ce métier-là. Et à un moment, ton objectif, c'est aussi de rester au pouvoir et d'être élu et d'avoir le salaire qui va avec, etc. Voir le pouvoir pour ceux que ça intéresse. Après, une fois que ce constat un peu pessimiste est posé. Hein, et, mais pas si pessimiste que ça. Faut arrêter d'être naïf quand même. Faut arrêter d'être des enfants. Hein, ces gens gèrent leur carrière comme nous gérons tous notre carrière en essayant d'avoir la vie la plus confortable au quotidien. Donc ils sont pas très différents de nous finalement. Une fois qu'on a évacué ça, rien ne nous empêche, nous, de nous retrouver plus dans les valeurs, dans les projets de telle politique plutôt que de telle politique. Parce que tout en poursuivant leurs intérêts personnels, bah, ils portent aussi des programmes, des idées, des projets, des promesses, qui peut-être sont à même de rassembler des suffrages et de les faire parvenir au pouvoir, mais qu'une fois arrivés au pouvoir, le plus souvent, contrairement à une idée reçue, ils mettent en place. Quand vous voyez la politique que le président Macron a menée, bon bah en fait, l'essentiel de son programme, je parle de son premier mandat, l'essentiel de ses promesses, il est, hélas diront certains, mais il les a mis en œuvre, notamment sur le plan fiscal par exemple. Donc certes, à mon avis, les politiques, surtout passé un certain âge, je suis très pessimiste, poursuivent d'abord leurs intérêts propres et particuliers, mais il n'empêche que les projets politiques sont extrêmement différents. Et si vous élisez Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Bruno Retailleau, François Bayrou, que sais-je, et qui sais-je, à la présidentielle, certes, bah vous allez satisfaire, pardon, un appétit personnel de pouvoir, mais le projet qui arrive aux commandes du pays n'est pas du tout le même. Et c'est là où le bonnet blanc, tous les mêmes, tous pourris, n'a aucun sens. Hein. Si les Français avaient élu Marine Le Pen à la place d'Emmanuel Macron, la politique monnaie n'aurait pas été la même. Le visage de la France ne serait pas le même. Donc, avoir un regard clinique et pas trop naïf sur les politiques n'empêche pas de penser que nos votes ont des conséquences, puisque derrière les ambitions personnelles, il y a des projets qui ne sont pas les mêmes. Voilà. C'est là où, moi, la politique m'intéresse. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser quand même pour le débat politique, plus qu'aux personnalités politiques d'ailleurs, ce qui ne m'intéresse pas beaucoup, moi. Mais on peut s'intéresser pour le débat politique sans être naïf. Et en estimant que malgré tout, les différents projets ne se valent pas, ne se valent pas. tout cas, c'est ma conception, mais c'est pas forcément la bonne. Ça, j'aime bien, je trouve ça très très beau. Il y a Tonton Caméra qui a écrit dans le chat: Bonjour Étienne. Appelle-moi papy. Je voudrais revenir sur la liberté de parole poétique que vous évoquez vers 10h30. Mes enfants soutiennent le RN, moi et les filles. Pourtant, jamais d'engueulade, juste des débats argumentés, du respect et de l'analyse. On se chatouille un peu, on s'interroge, et c'est la vraie richesse du dialogue. Débattre sans se détester, c'est aussi ça la vie. Enfin, c'est ce que je pense. Débattre sans se détester, c'est aussi ça la vie. Enfin, c'est ce que je pense. Soit très très beau. Parce que moi, ce que je pratique de façon très édulcorée au niveau du chat, en disant: venez à moi, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, on va discuter, et on va sûrement pas se convaincre, mais au moins on va créer un lieu, un espace de discussion, où on va essayer de se traiter avec respect, malgré tout ce qui nous oppose. Toi, où es-tu? Je t'ai perdu. Ah zut, le chat a filé. Pardon, j'ai perdu ton pseudo. Mais toi, tu le vis au sein de ta propre famille, ce qui est. Ce qui est beaucoup plus difficile, je trouve. Donc, GG. Tout ça très très bien. C'est Tonton Caméra. Merci beaucoup. Bah, bravo, Tonton. Enfin, moi, par exemple, j'essaie de ne pas parler politique au sein de. Dans le cadre familial. Parce que, bon, bah, mes idées politiques ne sont pas les mêmes que celles de ma famille. Et famille et famille étendue. Et bon, bah, moi, par exemple, je n'ai pas ce courage. Moi, je n'ai pas ce courage d'amener le débat politique. Dans le cadre familial, parce que je trouve que quand on a des valeurs, qu'on est un peu convaincu, bah le ton peut très vite monter, quoi. Voilà, et en fait, et c'est pas ce qu'on cherche au sein d'une famille. La famille, c'est quand même la conciliation au quotidien, avec des efforts permanents et constants et importants de caractère, de sensibilité extrêmement différente, quoi. Sans parler de politique, hein. Au sein de votre famille, vous avez des gens qui sont très différents de vous. Hein? Et pourtant, vous faites des efforts, voilà, que vous ne feriez sûrement pas avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est la famille. Hein? Parce que ce lien, il est précieux malgré tout. Alors, donc moi, c'est ce que je fais, mais je ne pense pas que ce n'est pas forcément bien. Hein? Mais moi, j'évite d'amener la politique au sein de la famille. Une fois que tu as identifié que les gens ne sont pas tout à fait d'accord avec toi. Ils savent ce que tu penses, tu sais ce qu'ils pensent. Bon. Bon. Alors que, bon, intellectuellement, ce serait plus honnête, peut-être, d'avoir ce genre de débat au sein du cercle familial. Moi, j'évite. Moi, j'évite. Je trouve ça trop difficile. Trop difficile. Ou de le faire avec beaucoup de prudence et de mesure, quoi. Moi, je parle pas politique quand les gens parlent de politique, j'écoute, je réagis pas. Oh, je l'ai fait, mais je trouve que c'est contre-productif, quoi. Mais bravo à ceux qui arrivent à le faire comme notre ami Tonton tout à l'heure, quoi. Alors, bon, bah voilà pour cette page assez importante qu'on a consacrée ce matin à Marine Le Pen. Je vous rappelle que. Attends. Attends, je voulais vous montrer un truc. Est-ce que je peux vous montrer un truc? J'ai envie de vous montrer un truc en avant-première. Attends. J'ai une petite surprise à vous montrer là. Attends, est-ce que ça va marcher? J'ai peut-être un petit leak à vous montrer là. Je voulais attendre, mais il faut que je crée une nouvelle scène carrément. Ok. Donc c'est une image. Ok. On va l'appeler. Je vais l'appeler. L'image, je l'appelle leak. Ok. J'ai un petit leak là. Oh, normalement, je devais attendre cet après-midi, mais vous êtes trop mignon, j'ai envie de partager ça avec vous. Parcourir. Comment s'appelle la... C'est un visuel, c'est une photo. Ok, DDF. Bureau. Elle est là. Est-ce que ça va marcher? Oui. Ça marche même trop bien. Je vous la mets à l'échelle. Je vous la mets à l'échelle. Regardez comme c'est beau. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le bootcamp. Le bootcamp. Avec Tommy. Avec JL Tommy, avec Thomas, mon mate de la Zilane. Ce week-end, le week-end qui vient là, bootcamp, tous les deux, 24 heures, oui, Alexandre, 24 heures de live non-stop. Samedi 18h jusqu'à dimanche 18h. Voilà. Deux frères, deux fauves, voilà, un live sur nos deux chaînes. Je vais chez Tommy dans la région de Bordeaux. Voilà. Et on fait 24 heures de live non-stop. Ça va faire des pompes, ça va faire des tractions. Voilà. Et on va essayer de poncer un peu tous les deux dans la bonne humeur, dans la rigolade. Les jeux de la Zilane. Voilà. Ah non, c'est pas un 1er avril. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, pour le coup, ça n'a rien à voir avec la date. Voilà, je pars vendredi, là. On setup tout. Et j'arrive en début d'après-midi chez Tommy là et le visuel il tue hein, c'est là qu'il l'a fait sur nos deux streams à nous sur nos deux streams à nous voilà, et ça vaudra et ça remplacera le simplet du coup voilà et donc le visuel est énorme et donc voilà ça, ce sera à la place du simplet j'espère qu'il y aura son chien ouais il y aura son chien voilà. Donc, 20, alors, bootcamp déjà. Donc, à ceux qui disent qu'on ne prend pas cette compétition au sérieux, je vais à Bordeaux, quoi. Donc, bootcamp, quoi. On va, je, voilà, on va. Non, j'ai pas question pour un champion. Pas ce week-end. C'est jamais le week-end. Donc, bootcamp déjà. Donc, voilà, on est sérieux, quoi. Et 24 heures, 24 heures de live non-stop. On va lancer à 18h. On va cut à 18h le dimanche. Et après, ah oui, mais après, je rentre et après, j'ai question pour un champion lundi, quoi. Voilà, donc je rentre dimanche en fin de journée, je dors un peu et on va faire un stream de 24 heures. 24 heures, quoi. Voilà, on va rire comme des baleines. Ce sera mon premier live de 24 heures. Je n'ai jamais streamé 24 heures. Jamais, jamais. Voilà. Ça va être pas mal ça. Pas mal ce petit visuel là. Voilà. Bon, vous n'avez rien vu, hein, parce que normalement je dois le poster en fin d'après-midi. Je vous ai rien dit. Je ne suis pas un liqueur fou. Ah, non, mais en vrai. Non, c'est pas un poisson. Ah non, c'est pas un poisson. Ah bah non. Ah, non, non. Non, c'est un vrai truc. Ah, ah c'est vrai que comme j'ai posté ça un 1er avril, les gens ils vont dire que c'est fake. C'est ce week-end, hein, ce week-end. 18h ce week-end sur nos deux chaînes à tous les deux. C'est pas un poisson, c'est un bootcamp. Voilà. Et alors. Je peux vous leak nos échanges aussi de parce qu'on rigole bien tous les deux. Et très réactif. Et je peux vous leak aussi nos échanges avec Tommy. Parce qu'on aime bien se moquer l'un de l'autre. Et il est très sympa. D'abord, il est très réactif et il est très sympa. Et qu'est-ce qu'il dit par exemple? Et il dit par exemple. Parce qu'on s'est un peu moqué de nos horaires. Voilà. Et tu vas me claquer dans les doigts. Tu vas me claquer dans les doigts. Parce qu'en fait, il pense que je vais pas tenir la distance, quoi. Voilà. Et là, et moi, je lui ai répondu, jeune présomptueux, tu vas me supplier d'arrêter le stream. Tu vois? Je suis une machine, je lui dis. Voilà. On rigole bien. Voilà, ça va être un bon moment, quoi. Donc, on va peut-être pas gagner la Zidane, mais en tout cas, bien se fendre la gueule. Voilà. Donc rendez-vous les amis 18h samedi soir pour 24 heures de live non-stop quoi. En gros tu vas canner papy exactement. Ouais. Il connaît pas papy Tommy. Hein. Il va me supplier d'arrêter. Il va me supplier d'arrêter. Il va me supplier de faire des pauses. Il va prendre très cher le Tommy. Il sait pas, il connaît pas la machine. Il connaît pas l'Iron Man. C'est-à-dire, je peux te dire que c'est pas un 24 heures de stream qui pourront peur. On va rire comme des baleines. Ça va être sympa. Bon, on continue la revue de presse ou bien ? Merci, comment je dis ? Imspoon ? Imspoon ? En tout cas, merci. On va bien rigoler. Bon, sur ce, on poursuit la revue de presse. Oh si, il y a d'autres actus, bien sûr, regardez. Hop. Donc, moi, je vais vous parler de Poutine, je vais vous parler de Trump, on va parler de choses très intéressantes aussi. Let's go, on est reparti pour une heure. Mais je voulais faire une grosse page Marine Le Pen, quoi. Ah, c'est mon Ambrose qui m'a écrit, c'est plus important que tout, c'est plus important que l'actualité. Ah, trop bien. Trop bien. Salut Squid Gwen, à tout à l'heure. Alors, Poutine, maître du double jeu. Poutine que Trump, le président américain, aimerait bien voir signer le petit accord de cessez-le-feu pour mettre fin au conflit en Ukraine. Mais il veut pas. Oh, quelle surprise. Face à un Trump pressé de décréter la paix en Ukraine, le président russe temporise et multiplie les faux semblants. La Maison-Blanche s'impatiente. Il en faut sans doute plus pour impressionner Vladimir Poutine. Le président reste ouvert à tout contact avec le président. Trump a sobrement indiqué son porte-parole. Comme si de rien n'était. La veille, Trump avait confié être très énervé. Excusez-moi, c'est mon amoureuse, je sais plus important que tout. La veille, Trump avait confié être très énervé, furieux même, contre son homologue russe, accusé de retarder la mise en œuvre d'un cessez-le-feu. Moi, je vous ai dit, il y a un monde, un moment, je vous ai dit ça il y a longtemps, là, Trump, il est plutôt sur une carte pro-russe, là, hein, une paix, mais une paix aux conditions de la Russie face à l'Ukraine. Voilà. Et moi, je vous ai dit, il y a quelques semaines, où, attention, Trump, c'est quelqu'un qui n'a pas de plan de, qui a pas de plan établi sur les choses. C'est un opportuniste. Ça peut être très positif ou très négatif, mais c'est quelqu'un qui peut se décider en fonction des événements, quoi. Et il y a un monde où Trump peut devenir le meilleur allié de Zelensky et de l'Ukraine si jamais Poutine ne veut pas le suivre dans le chemin qu'il a imaginé. N'oubliez pas ça, je vous l'ai dit il y a plusieurs semaines, c'est encore un truc qui peut se passer, quoi. Alors évidemment, le Yaourt Nature dit « Trump a baissé son pantalon, mais Poutine n'en veut pas ». C'est aussi un peu ça, c'est vrai. Donc, Trump avait confié être très énervé, furieux même contre son homologue russe, accusé de retarder la mise en œuvre d'un cessez-le-feu. Bah oui, il a promis dans la campagne présidentielle qu'il allait foutre la paix en 24 heures et il n'y arrive pas, donc il est un peu en colère. La frustration de l'Américain dit tout de son impuissance. Poutine manœuvre en anguille depuis des semaines. Vendredi, il a sorti de son chapeau l'idée de mettre en place une administration transitoire en Ukraine sous l'égide de l'ONU pour discuter ensuite seulement d'un accord de paix. Washington a accueilli la proposition pour ce qu'elle était, une fausse piste destinée à retarder les négociations. Jour après jour, l'ancien lieutenant-colonel du KGB souffle le chaud et le froid, laissant entrevoir de timides gages de bonne volonté pour mieux se rétracter ensuite. Le 18 mars, la Maison-Blanche se gargarisait d'avoir obtenu un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. Moscou réduit dans la foulée à 30 jours cet arrêt relatif des hostilités avant de reprendre d'ailleurs ses bombardements. La semaine suivante, la délégation des deux pays discute près de 12 heures en Arabie Saoudite. Les États-Unis affirment avoir obtenu une trêve en mer Noire, encore ratée. Moscou prévient que ses armes ne se tairont qu'en échange de la levée des sanctions occidentales. À chaque geste esquissé, une condition surgit. À chaque avancée, une ligne rouge s'impose. La Russie fait tout ce qu'elle peut pour empêcher la fin de la guerre, condamne le conseiller du président ukrainien Andriy Yermak. Vladimir Poutine n'a jamais varié d'un iota dans ses exigences sur le fond. Il réclame la reddition de l'Ukraine, sa démilitarisation, le contrôle entier des 5 régions annexées par ses troupes et la destitution de Volodymyr Zelensky. Il veut le beurre, l'argent du beurre, le cul, la crémière. Quand le président russe réclame la démilitarisation de l'Ukraine, c'est quasiment faire de la Russie, de l'Ukraine la Russie, quoi. En gros, il dit, le pays que j'essaie d'envahir depuis X mois, on va le démilitariser. Voilà. Comme ça, je viendrai l'envahir avec une camionnette, quoi. Et il veut le départ de Zelensky pour y mettre à la place un président, évidemment, beaucoup plus pro-russe. Et Emma, tu as raison, et 10 balles et 1 mars. Mais là, c'est pas marqué, mais je pense qu'il le réclame aussi. Voilà. Il est censé conclure un accord avec lui, qu'il aime ou qu'il n'aime pas, c'est d'agacer Trump dimanche. Trump commence à s'agacer. Le temps joue pour le chef de l'État russe. Sur toute la ligne de front, nos forces ont l'initiative stratégique, soulignait-il vendredi. Son armée récupère lentement l'intégralité de la région de Koursk, hein, le seul gain de l'Ukraine en terrain ennemi. Elle continue de grignoter l'Ukraine à petits pas, c'est très, très, très lent. Chaque village gagné sera vraisemblablement considéré comme acquis, quand viendra l'heure de se partager le territoire. Moscou n'est pas pressé, puisque sur le terrain militaire, il a plutôt l'avantage. En face, Trump a fait l'erreur de montrer qu'il était pressé. Mais pourquoi il avait promis de... Trump, il a dit, mais moi, la paix en Ukraine, c'est 24 heures. Bah ouais, bah oui, mais quand tu dis des conneries, forcément, à un moment, derrière, c'est compliqué. En face, Trump a fait l'erreur de montrer qu'il était pressé. Le milliardaire a rejoint la Maison Blanche en trompettant qu'il saurait rétablir la paix en moins de 24 heures, puis finalement en 100 jours une fois investi. Il multiplie les appels du pied depuis. La stratégie de Trump destinée à amener Poutine à la table des négociations n'a pas fonctionné, constate un analyste géopolitique. Elle a seulement augmenté l'appétit du président russe. Merci Mookie 5 pour le Prime. Et qui m'a écrit ? Ah bah c'est justement Léa, la graphiste qui travaille gentiment pour moi, qui me fait plein de jolies choses et qui va finir de peaufiner le visuel dont je vous parlais. Voilà, que je posterai vers 17h du bootcamp. Ça, c'est top. Pour amadouer le Kremlin, l'Américain fait désormais miroiter la pluie de roubles que provoquait la reprise du business entre les deux pays. Trump veut des gains rapides, Poutine, lui, voit plus loin. Son projet consiste à replacer la Russie parmi les grandes de ce monde. La constitution modifiée par ses soins l'autorise à rester au pouvoir jusqu'en 2036. Le seul danger serait de se mettre définitivement à dos son allié le plus indulgent. Il le sait, aucun autre président américain ne lui tendra la main comme ce vieil ami de Moscou. Bon, il sait, pour l'instant, le Trump, hein, on va parler comme au café du commerce, il s'est un peu fait rouler dans la farine par Poutine, qui a été plus malin que lui. Il pensait qu'il serait le plus fort en imposant sa paix, la Pax Americana. Mais en fait, il n'y arrive pas. Après, comme je vous le disais, Trump, c'est un peu un animal politique qui fait un peu toutes les choses à l'instinct. Si demain, Poutine l'énerve trop, il est capable de mettre le paquet en re-aidant massivement l'Ukraine, quoi. Donc, ça, c'est un truc que j'avais lu il y a très longtemps et que j'avais trouvé ça assez pertinent, quoi. Voilà. Donc voilà où on en est, la guerre en Ukraine qui se poursuit pour l'instant, Poutine qui est, selon le Parisien, le maître du double jeu. Puisqu'on parle de Poutine qui essaye de rester le plus longtemps au pouvoir, eh ben, j'apprends dans le Figaro que Trump a le même projet. C'est quoi le dicton ? C'est qui ressemble, ça semble, c'est ça ? C'est drôle ça. Alors non, c'est pas possible, hein, c'est deux mandats, mais lui il dit que peut-être en faire trois en fait. Ah bon ? Et tout le monde pensait que c'était une blague, mais non ! Non, non, il commence à en parler là. Nouvelle règle. Tu sais, vous avez déjà joué à des jeux de société comme ça, vous jouez avec des potes ou en famille, tu vois, puis à un moment, t'as quelqu'un qui joue à côté de toi qui peut être un enfant parfois, la partie se passe pas bien, et subitement, il change les règles. Hein ? Les petits font ça parfois. Les petits, quand ils perdent, ils changent les règles. Bon ben voilà. Donc là Trump il veut changer les règles et il dit pourquoi pas un troisième mandat. Alors tout le monde lui dit mais non c'est pas possible. Si, let's go. L'entretien accordé dimanche par Trump à la chaîne NBC News lors duquel il n'a pas exclu s'emparer du Groenland toujours voilà par la force a suscité un mélange de stupeur, d'incrédulité et d'inquiétude parce qu'il parle aussi du Groenland. Let's go. Exactement. Les bilcus, c'est exactement ça. Trump envisage sérieusement de briguer un troisième mandat. Voilà. S'impatiente contre Poutine, ça on l'a déjà dit, et n'exclut pas de s'emparer par la force du Groenland et se fiche bien de l'augmentation du prix des automobiles. En une dizaine de minutes d'entretien téléphonique dimanche avec la chaîne NBC News, Donald Trump a une fois encore dominé l'actualité américaine entre stupeur, incrédulité et inquiétude. Au cours du premier mandat de Trump, souvenez-vous, les réactions à ses provocations permanentes variaient. Il y avait ses partisans qui prenaient ses déclarations sérieusement, mais pas littéralement, et ses adversaires qui tombaient souvent dans le panneau en les prenant littéralement, mais pas sérieusement. Son deuxième mandat semble avoir au moins rassemblé sur ce point. Tout le monde prend désormais littéralement et sérieusement les déclarations du président américain, puisque avant on disait « mais c'est rien, c'est Trump, il dit des dingueries », et en fait non, il dit des dingueries, mais il veut les faire derrière. L'idée d'un troisième mandat, par exemple, a suscité des réactions d'incrédulité. Le 22e amendement de la Constitution ratifié par le Congrès en 1951, après que Roosevelt a été élu à 4 reprises, limite depuis 1951 la présidence à 2 mandats. Voilà, Trump, il a fait 2 mandats. Un, puis il a perdu l'élection d'après. Enfin, lui, il dit qu'il a gagné et qu'on lui a volé l'élection. Et puis, là, il fait son troisième, avec Biden entre les deux. La possibilité de voir Trump renverser cette règle a pourtant été fréquemment évoquée ces derniers mois par des élus, hein, par des commentateurs également, hein, des proches de lui, des soutiens qui disent « Ah, mais ce serait bien que Trump fasse un mandat supplémentaire ». Et même Trump, qui l'a mentionné jusqu'ici, pendant la campagne, en général sur le ton de la plaisanterie, hein, mais le ton de la plaisanterie est en train de changer et le ton est en train de devenir plus sérieux. Voilà. « Je ne plaisante pas », a répondu Trump depuis son club privé de Mar-a-Lago à la question de la journaliste de NBC News, qui l'interviewait par téléphone. « Beaucoup de gens aimeraient que je le fasse. Mais je leur dis que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, qu'il est encore trop tôt dans l'administration et que je me concentre sur le présent. Voilà. Il y a des méthodes pour y parvenir, même à un troisième mandat, dit-il. L'une des hypothèses que quelqu'un évoquait tout à l'heure dans le chat serait que le vice-président J.D. Vance se présente à la présidence avec comme vice-président Trump, voilà, pour démissionner en sa faveur une fois élu. Ah ouais. Ouais, Poutine avait fait ça, ouais. Il est sur un mandat, effectivement, il avait fait ça. Ouais. Medvedev, exactement. Le ticket Poutine-Medvedev, exactement. C'est l'une d'entre elles, mais il y a d'autres hypothèses, dit Trump. La journaliste lui dit... Est-ce que vous pouvez... Pardon, c'est mon WhatsApp. Je vais fermer parce que... Non, mais non, ça me permet de voir les messages importants. Alors, Trump dit qu'il y a d'autres hypothèses. Et la journaliste lui dit, mais vous pouvez m'en citer une autre? Et là, Trump répond, non. Bon. En fait, il y a l'envie, mais il n'y a peut-être pas encore tous les scénarios, quoi. Lorsque la journaliste lui a demandé à Trump pourquoi il souhaitait un autre mandat, il a expliqué, parce que j'aime travailler. Bah oui. Hein. Là, je pense que l'argument, il est... Je pense que l'argument, il est irrésistible. Attendez, si le gars aime travailler, je vois pourquoi vous voulez lui enlever son job. Faut changer les règles, je pense que tout le monde est d'accord. Trump est revenu sur le sujet à bord de l'avion présidentiel Air Force One. De plus en plus de gens me demandent de faire un troisième mandat, qui est en quelque sorte un quatrième mandat. De plus en plus de gens me demandent de faire un troisième mandat, qui est en quelque sorte un quatrième mandat. Ah oui, car l'autre élection... Celle de 2020 a été totalement truquée. Ah oui, c'est vrai qu'il est toujours là-dessus, lui. Ah oui, donc en fait, s'il arrive à changer la règle, ce serait pas son... Dans sa tête, c'est même pas le troisième. Parce qu'il est déjà dans son troisième, lui. Il est déjà au-delà... Le gars est déjà au-delà de la Constitution. Oh, c'est fort. Dans sa tête, il est déjà au-delà de la Constitution. En fait, il a pas changé les règles. En fait, il ambitionne pas de changer les règles, il a déjà changé les règles. En fait, il vise le 4 à la suite, il vise pas le 3. Non, il faut se mettre dans sa logique pour bien comprendre. Il est dans le futur. Exactement. Ah, ok. Complètement ravagé. Ok. Rappelons qu'il a jamais reconnu sa défaite face à Biden. Jamais. Alors, les constitutionnalistes, spécialistes de la Constitution... se sont aussitôt empressés d'expliquer que la manœuvre consistant à se présenter comme vice-président était interdite. Ah, pour ceux qui disaient « ouais, c'est malin », en fait, ils ont déjà prévu ça, c'est interdit. Par le 22e amendement de la Constitution qui stipule que le candidat à la vice-présidence ne peut pas être inéligible à la présidence. Le candidat à la vice-présidence ne peut pas être inéligible, c'est un mot qui plaît beaucoup à Marine Le Pen, à la présidence. Et comme on ne peut pas faire plus de 2 mandats, Trump serait inéligible à la présidence et donc il ne peut pas être candidat à la vice-présidence. Okay. C'est déjà prévu par la Constitution. La modification de cet article demande un vote de la majorité des deux tiers du Congrès ou des États de l'Union, une ratification par les trois quarts des États américains, inenvisageable en l'état actuel des choses où les républicains n'ont qu'une courte majorité au Congrès. Donc en l'état actuel des choses, Trump n'aurait pas la majorité pour faire cette modification de la Constitution. Après, Trump peut passer outre la Constitution. Hein ? Après, ça parle de Poutine, mais ça, on en a déjà parlé. Et puis du Groenland, qu'il a toujours le projet d'envahir. Nous aurons le Groenland. Oui, à 100%. Tac. Je n'exclus pas la force militaire. Waouh ! Mais je pense qu'il y a une bonne possibilité que nous puissions faire sans. Ça rigole pas, hein ? Bah, c'est Trump, quoi. Voilà, petite nouvelle des États-Unis. Incroyable, quand même, l'histoire de... Trump, c'est vraiment Biff Tannen dans Retour vers le futur, c'est trop... Oh, la ref, mais bien sûr. La ref. Bien sûr, Biff Tannen. Eh oui, c'est vrai. Bravo. C'est vieux, ça, mais c'est beau. C'est beau. Par contre, je déteste le fumier. J'ai pas la ref, là. C'est Biff Tannen qui s'est pris du fumier ? Je déteste. Ah, oui. C'est chez moi, vous inquiétez pas. J'ai laissé ouvert mon WhatsApp pour rien louper. J'attends des décisions importantes. Je l'ai pas sur YouTube, je l'ai pas. Je l'ai pas. Alors, donc Trump, alors des nouvelles de Poutine, des nouvelles de Trump, des nouvelles de Marine Le Pen, de qui on va prendre des nouvelles ce matin? C'est un petit peu sérieux comme débat, mais ce ne sera pas sans conséquence sur notre vie du quotidien. La guerre commerciale décrétée par Trump. Hein. On est dans le dur, on y arrive là. Droit de douane, c'est quand même la une du monde, s'il vous plaît. Une onde de choc mondiale. Mercredi 2 avril, donc c'est demain ça, tomorrow, baptisé Liberation Day par Trump, doivent entrer en vigueur les droits de douane réciproques qu'il a décidés. Cette loi du talion, c'est encore mon Lombroso. J'aime bien comment il écrit. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et c'est pas une blague. Cette loi du talion marquerait la fin du système économique mondial bâti après 45, ça n'est pas rien, sur un principe de non-discrimination entre pays riches et pauvres. Ces barrières douanières vont redessiner la carte du commerce international, ça n'est pas rien. Le PIB mondial va faiblir, les marchés boursiers sont d'ores et déjà fébriles. Merci pour le bon anniversaire, je lui dirai. Elle va être contente. Et là, on va voir tout ça, page 14. C'est ici. Tax Trump, l'onde de choc mondial. Je trouve ça assez intéressant. Samuel, il nous faudrait des unes à Jean-Pierre Pernaut dans le lot. C'est-à-dire, mais il est mort, Jean-Pierre. Le pauvre Jean-Pierre. Qu'est-ce que tu vas le déranger dans sa tombe ? Des unes à Jean-Pierre Pernaut, mais il est décédé. Pourquoi tu l'embêtes ? Pourquoi tu viens... Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Le pauvre, le JPP, là. J'ai déjeuné une fois avec lui. Parce que je trouvais que... C'est quand même quelqu'un qui avait inventé un vrai style de présentation... Pas de prompteur, un phrasé très naturel. Je n'étais pas un grand client du journal de Trésor de TF1, mais le gars avait vraiment inventé, il avait sa patte, exactement. Et un jour, moi j'étais encore, j'étais un jeune vieux présentateur, tu vois. Je n'étais pas jeune, je n'étais pas vieux, je ne sais pas, je dois avoir une trentaine d'années. Et un jour, je ne sais pas, je le croise et je l'invite à déjeuner. Jean-Pierre Pernaut. Je sais plus pourquoi. Et il accepte. Et on déjeune. Et on parle. Et puis je lui pose des questions sur sa carrière. Ça m'intéressait, quoi. Et donc, on échange un petit déjeuner entre présentateurs. Et je le recroise quelques semaines plus tard. Il était avec dans un train. Il était avec son épouse, l'ancienne Miss France. Là, il était juste devant nous, avec mon épouse à moi, qui est pas une ancienne Miss France, mais qui est bien plus belle que les Miss France. C'est normal, c'est mon épouse. Et donc, par correction, je vais saluer Jean-Pierre Pernaut, avec qui j'avais déjeuné quelques semaines auparavant. Voilà, par correction. Et donc, je vais le saluer. Et il me regarde et il me dit « Excusez-moi, mais qui êtes-vous ?» C'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Non, parce qu'on a quand même déjeuné ensemble 2 heures, en fait. Là, il y a 15 jours. Là. Ah, okay. Voilà. Donc, deux pistes, hein, deux solutions. Soit vraiment je ne laisse aucun souvenir aux gens que je rencontre, voilà, et vraiment je ne marque pas les gens, ou le gars était totalement sénile, voilà. Et je pense pas qu'il soit sénile, enfin à l'époque il était en pleine forme, voilà. Donc je l'avais pas marqué quoi. Non. Donc voilà, vraie anecdote. Voilà, JPP, RIP. Mon gars, qui êtes-vous ? Oh, merde ! Merde ! Alors, la guerre mondiale de commerce. Pour Donald Trump, le droit de douane est non seulement le plus beau mot du dictionnaire, oh, je l'adore ce mec-là, mais aussi son arme favorite pour obtenir des concessions diplomatiques et économiques. Dernier exemple en date, le président américain a menacé dimanche 30 mars la Russie d'imposer... La Russie ? D'imposer des droits de douane de 25% à 5% sur son pétrole si elle bloquait ses efforts pour mettre fin à l'invasion en Ukraine, bluff ou réalité ? Ça se tend. C'est la question que se posent les pays du monde entier à quelques heures, mesdames et messieurs, de l'annonce de droits de douane réciproque mercredi demain, baptisé pour l'occasion par Trump, jour de libération. Cette loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, vous connaissez, qui consiste à aligner des taxes d'importation sur celles de ses partenaires, marquerait la fin d'un système commercial bâti au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur le principe de la non-discrimination, à savoir que les tarifs doivent être les mêmes pour tout le monde, sauf en cas d'accord commercial. Trump semble décidé à appliquer des nouvelles taxes douanières, même s'il ne ferme pas la porte à des accords, si les gens sont prêts à donner quelque chose de grande valeur en retour. Dans quel but ? Pourquoi ces taxes ? Les raisons invoquées sont variées. La Maison-Blanche a d'abord parlé de la menace posée par les immigrants clandestins et la drogue, hein, qui Canada, Mexique. Voilà. Il a aussi accusé le reste du monde de tirer profit du déficit commercial américain. Hein, c'est la faute des autres, le déficit commercial américain. Hein, 1110 milliards d'euros en 2024, record historique. En barricadant l'économie américaine derrière des barrières douanières, Trump espère réindustrialiser son pays tout en augmentant les recettes fiscales. Mais elle risque d'alimenter l'inflation, hein, puisque en n'important plus les produits pas chers de l'étranger, les Américains vont avoir un caddie qui va leur coûter plus cher. Donc alimenter l'inflation et de ruiner la compétitivité des entreprises américaines. Notamment celles qui tentent d'exporter et qui vont bien sûr elles aussi rencontrer les droits de douane de rétorsion. Il a expliqué sur NBC News qu'il se fiche de la hausse du prix des automobiles après avoir reconnu début mars que sa politique pouvait provoquer des perturbations sur l'économie américaine. Ces droits de douane réciproques vont redessiner la carte du commerce mondial. Ils vont inciter la Chine à rediriger ses exportations vers l'Union européenne, premier marché au monde, pour compenser la perte de ses débouchés aux États-Unis. Le PIB mondial va flancher. Londres, qui tente de signer un accord commercial avec Washington, toujours dans le dos de l'Europe, britannique, là. Hein, leur petite relation privilégiée avec les États-Unis, là. Toujours à vouloir nous la faire à l'envers. Hein. Hein, pardon, à un moment, il faut dire les termes. Hein. Ça va, les Anglais, là? Hein ? L'Europe, quand ça les arrange, hein ? Hein ? Oui, oh, l'Europe, oui, ah puis non, finalement, Brexit, ah puis, hein? Ça va aller maintenant? Je les adore. J'aime beaucoup l'Angleterre. Perfide Albion. Donc, Londres, qui tente de signer un accord commercial à Washington, a calculé que si les États-Unis taxent toutes leurs importations à 20%, cela réduirait le PIB britannique de 0,6%. Les marchés boursiers sont fébriles. Bon, effectivement, ces derniers jours, il y a eu un petit peu de pertes sur certains marchés. Sans attendre le Liberation Day, certains pays ont pris les devants pour amadouer Washington. Le Vietnam a annoncé fin mars une baisse de ses droits d'importation sur plusieurs produits, dont les voitures ou le gaz naturel liquéfié. L'Union européenne a préféré repousser du 1er au 12 avril ses mesures de rétorsion pour mieux négocier. Maudits Anglois, effectivement, Arundel. Le retrait des États-Unis du commerce mondial pourrait paradoxalement accélérer le libre-échange ailleurs sur la planète. Face à l'offensive douanière américaine, le Japon, la Corée du Sud, la Chine ont annoncé dimanche vouloir renforcer leur coopération pour offrir un environnement prévisible aux entreprises et accélérer leurs négociations en vue d'un accord de libre-échange. Il y a un monde, je suis pas économiste, mais il y a un monde où toute cette guerre commerciale décidée par Trump se retourne contre les États-Unis, contre ses entreprises, contre les consommateurs américains. Et renforce la compétitivité des autres pays, quoi, qui vont devoir faire sans les États-Unis. On va voir, on verra. Voilà. Ouais. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on prédit certains économistes. On va voir. Il y a un monde où finalement, où ça renforce même la cohésion européenne. Bah, c'est ce qui se passe avec l'Ukraine d'ailleurs. Les Européens serrent les rangs comme jamais sur la question ukrainienne, en réaction au désengagement des États-Unis. Voir. Vous verrez qu'un jour, on remerciera Trump pour tout ça. Bon, on revient en France pour terminer. Et après, on va jouer aux jeux vidéo. Enfin, après, je ferai une petite pause d'une demi-heure pour manger. Et après, je relancerai un petit stream de jeux vidéo, on va dire à partir de, je sais pas moi, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 7h30, ouais, 3h30. Parce qu'après, je vais chercher mon amoureuse pour une petite soirée en amoureux. Pour son anniversaire. Encore un article où on voit que la télé comprend rien à Internet. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pour en fait protéger les candidats de la télé-réalité du harcèlement des gens là. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Merci beaucoup, Lugara. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Merci Mouki. Merci Meili. Alors, c'est quoi cette histoire de cyberharcèlement? Face au cyberharcèlement, TF1 et M6 tentent de lutter. Des déferlements de haine en ligne à l'encontre de participants d'émissions comme la Starac. Merci Sarah, c'est gentil. Je lui dirai. Ou Pékin Express ont poussé les chaînes à réagir, mais combattre ce fléau n'est pas simple, c'est assez intéressant en vrai. Je zoome. Un bon article de Maïlys Ray BD que je connais pas. Samedi 22 mars, la haine a traversé l'écran au zénith de Lille. Alors qu'elle était en tournée avec ses camarades de la dernière promotion de la Starac, Ebony, c'est la jeune femme que vous voyez ici, finaliste du programme de TF1, a vu des doigts d'honneur adressés par une spectatrice. Bravo madame pour l'élégance. Et la bêtise. Tout au long de l'émission, la jeune femme était déjà victime d'une vague de harcèlement sur les réseaux, comportant de nombreux messages d'un racisme décomplexé. À Lille, Ebony a rapidement pris la parole, donc après les doigts d'honneur adressés par une femme dans le public, en adressant un petit message pour une petite dame dans le public, deux points ouvrez les guillemets, moi je l'aime en tout cas, et j'aime tout le monde dans cette salle. C'est magnifique, c'est très très beau, très élégant de répondre à la haine comme ça. Avec un message d'amour. Je dis GG. Situation difficile à gérer. Fin décembre, en démol, la société de production derrière la Starac, soutenue par TF1, publie un communiqué dénonçant les propos haineux à l'encontre des élèves du télécrochet. La production et la chaîne rappelaient que ces attaques étaient inadmissibles, punissables par la loi, et que serait signalée toute campagne de haine à l'encontre des candidats et candidates. Bon, bravo à TF1 et à en démol. Le cyberharcèlement est en effet puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. En démol a d'ailleurs annoncé à France Inter avoir saisi le procureur de la République de Paris en décembre, puis en janvier, ok. Contacté, TF1 précise que seules les victimes sont habilitées à porter plainte. Bon, c'est pas très clair. D'après l'Observatoire des interactions en ligne de Bodyguard, ah, je connais ça. Spécialiste de la modération sur les réseaux sociaux, la haine en ligne a été en hausse de 16% en 2024 par rapport à l'année précédente. Contacté, ALP qui orchestre le jeu Koh-Lanta, les protos, tout ça, dont certains candidats ont été menacés de mort. À quel moment dans ta vie tu menaces de mort un candidat de Koh-Lanta ? À quel moment ta vie n'a absolument tellement peu de sens que ton activité, ça va être d'écrire à un gars qui est sur une île déserte sur un poteau pour le menacer de mort ? À quel moment ta vie est partie en cacahuète en fait ? Mais ils sont complètement cons. C'est triste, non ? À quel moment tu menaces quelqu'un de mort déjà, dit Sugar Frog ? Mais c'est quoi ? Mais dans quel monde vivent ces gens ? C'est fou ça. J'en reviens pas. Donc, ALP, dont certains candidats de Koh-Lanta ont été menacés de mort, l'a constaté. Les auteurs sont souvent des mineurs. Hein ? C'est des jeunes. Qui connaissent pourtant le harcèlement à l'école, mais ne se rendent pas compte de la portée de leurs mots et se sentent tout puissants derrière leurs écrans. Hey ! Les mineurs, là ! Hein ? Mais lorsque la justice est saisie, l'enquête se heurte parfois aux plateformes, pas toujours en mesure de communiquer les adresses IP des utilisateurs. Virginie Spi, maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à Avignon, déplore un désengagement des réseaux et dénonce notamment l'incitation de gens comme Elon Musk, hein, propriétaire de X depuis 2022, à faire n'importe quoi. Musk qui a quasiment supprimé toute modération sur X. Peu après son acquisition, l'homme d'affaires a en effet divisé par deux le nombre de ses modérateurs, qui n'étaient déjà pas assez nombreux. De son côté, depuis la réélection de Trump, Mark Zuckerberg, à la tête de Meta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, a choisi de suspendre le fact-checking. Hein. Vérification des informations sur les plateformes. Contacter TikTok rappelle pour sa part que les discours et les commentaires haineux n'ont pas leur place sur le réseau social chinois et précise utiliser une combinaison de technologies et de modérateurs humains pour détecter et supprimer les comptes et les contenus qui enfreignent ces règles. Voilà. Malgré cela, le cyberharcèlement peut se répandre très facilement sur le réseau social. Il suffit d'y rechercher le nom d'Elsa Bois pour trouver des tombereaux d'insultes misogynes. La jeune femme au casting de Danse avec les Stars sur TF1 accompagne cette saison le nageur Florent Manodou sur le parquet. Vous connaissez l'histoire. Fraîchement séparée de l'influenceur Michou, Elsa Bois est au cœur de rumeurs affirmant qu'elle aurait trompé ce dernier avec son partenaire de danse, insinuation qui participe à attiser la méchanceté en ligne. Mais occupez-vous de votre cul, en fait. À un moment, arrêtons, mais... Quand est-ce que... Un jour, la presse, il faudra qu'ils aient la liberté d'écrire ça, tu vois. Après cette histoire, la journaliste, elle aurait dû dire, mais en fait, occupez-vous de votre cul. Qu'est-ce que... Mais c'est dingue, ça. Enfin... C'est pas moi qui écris l'article, mais je le dis. Si elles ne peuvent pas gérer l'afflux de commentaires sur des publications extérieures à leur compte officiel, les chaînes ont en revanche la possibilité de modérer les messages laissés sur les leurs et de signaler les posts et les auteurs les plus vindicatifs. J'espère bien, oui. La gestion des réseaux sociaux demande aujourd'hui plus d'investissement, donc plus d'argent, c'est un coût. C'est vrai que c'est compliqué parce que pour modérer, c'est ce qu'a constaté Musk, hein, pour des économies, il a viré quasiment tous les modérateurs. Pour modérer, il faut des moyens humains. Hein. Ça coûte de l'argent. Et donc, ne pas modérer, c'est faire des économies. Voilà. Les gens qui hurlent sur les réseaux ne sont pas une majorité, ça j'en suis persuadé, mais ce sont eux qu'on voit, eux qu'on retient quand on a un personnage public. Tous les créateurs de contenu vivent ça au quotidien. La prévention passe également par la communication. Les communiqués des diffuseurs interviennent souvent alors que le cyberharcèlement a déjà commencé et visent plutôt à le faire cesser. Mais on retrouve de plus en plus fréquemment des messages préventifs avant la diffusion des épisodes. Ah, ça c'est intéressant. Comme le groupe M6 l'a récemment fait pour Pékin Express et Marié au premier regard, dont certains participants ont été la cible de discours venimeux. Virginie Spi, donc c'est la dame qui... quel est son titre ? Je cherche. Je ne l'ai plus. Pardon, j'aime bien dire ce que font les gens qui parlent. Je l'ai plus. Je sais plus son titre. Non, je l'ai plus. Maîtresse de conférence. Ah, merci. Ok, merci. À droite de l'image. Ah, maîtresse de conférence en sciences de l'information et de communication à Avignon. Merci, merci beaucoup. Virginie Spies insiste sur la nécessité pour les médias, les productions, mais aussi les présentateurs et les anonymes mis dans la lumière, de partager au maximum l'information, voire de la personnifier davantage. Elle dit, il faudrait que les animateurs et les candidats, merci Alex pour le soutien, c'est gentil, que les animateurs et les candidats qui ont plus d'audience que les comptes des chaînes, c'est vrai, la reprennent. Quand les animateurs communiquent sur les réseaux, ça marche très bien. Je pense à Nikos, exemplaire là-dessus, qui a éteint les feux avant qu'il arrive. Denis Brognard également. Il fait des lives, prend la parole. Merci, Antosu. Ok. Donc, sensibilisation, promotion, il faut parler de ces sujets, c'est ce qu'on fait ici. Voilà. L'anonymat ou le pseudonymat ne doit pas vous permettre que vous soyez un peu con parce que vous êtes très jeune ou un peu con parce que vous commencez à être très vieux comme moi, de dire n'importe quoi à propos de n'importe qui. Sachez qu'on vous lit, comme le mail qu'on a lu tout à l'heure, il était surréaliste, le mail que j'ai reçu à propos d'une candidate de question pour un champion. Voilà, vous savez, notre champion de karaté. Hein. Donc ça existe. Et donc, puisqu'il y a des gens qui font ça, il faut que la société s'organise pour faire comprendre à ces gens, de la façon douce, avec de la prévention, de la façon parfois un peu plus agressive, avec des plaintes en justice. Il faut saluer ce qu'a fait Ultia, par exemple. En fait, c'est ni fait ni à faire. Quand est-ce que tu prendras la parole pour défendre le petit Ryan qui est passé dans ton émission? Je l'ai fait, Lotte. J'ai même fait un tweet là-dessus. Tu sais pas lire ou quoi? Non, je l'ai fait déjà. Mais bien sûr. Salut, Yaourt Nature. Mon grand-père de 97 ans, waouh, t'adore, est fan de Questions pour un champion, ce serait incroyable pour lui si tu pouvais lui adresser un petit mot. Et j'en fais un clip, il s'appelle Raymond. Attends, 97 ans? Let's go. Bonjour Raymond, c'est Samuel Etienne. J'ai quelqu'un de votre famille dans mon chat sur Twitch, avec qui je suis en train de discuter, qui me dit que vous suivez Questions pour un champion. Et ça me fait super plaisir. Donc j'espère que vous amusez bien en regardant Questions pour un champion. Je suis sûr que vous avez plein de bonnes réponses. Et merci de votre fidélité à ce très beau jeu que j'ai eu beaucoup de chance de présenter. Ça me fait super plaisir. Voilà, je vous embrasse bien fort. Clip. Oh, il y a plein de bonjour Raymond dans le chat. Oh, c'est trop mignon, vous êtes trop chou. Oh, vous êtes trop chou. Raymond, il y a plein de petits cœurs pour vous hein, dans le chat, là. Je ne sais pas si vous verrez. C'est juste à côté de ma tête, là. C'est là. C'est dans la boîte? Bon, trop bien. Bon, les amis, bah, on a bien bossé ce matin. Hein. Petit stream à la cool de 2h42. Voilà, désolé, je ne fais pas autant de revues de presse que je le devrais. Hein. Je me dois à vous, je me dois à l'information. Mais voilà, le démon du gaming a pris possession de mon corps et de mon cœur et de mon âme. Et je suis en plein training de Zilan. Voilà. Et voilà. Mais bon, là, au vu de l'actualité autour de Marine Le Pen, je pense que c'était nécessaire. Bon, je fais une petite pause. Et oui, comme le dit Sugar, être joueur pro e-sport, c'est pas simple en même temps. Et oui, exactement. Voilà. De toute façon, la Zidane, c'est bientôt, hein. Donc, rappelez-vous l'annonce essentielle de ce live. Voilà, je ne vous ai rien dit, puisque normalement, je le poste après-midi. Bootcamp, soyez là samedi. 18h, 24 heures de live non-stop avec Tommy. L'entraînement de fou pour la Zilane. On va faire un live de 24 heures non-stop. C'est pas un poisson d'avril. Hein. 18h samedi jusqu'à dimanche 18h, ça va être une dinguerie. Je vais chez Tommy près de Bordeaux. Et ça va être une folie. Voilà, vous n'avez rien vu. Normalement, je ne dois pas leak ce visuel avant cet après-midi. C'est une vraie photo en plus, hein, parce qu'on est vraiment. En mode comme ça, déterre quoi! Il n'y a pas de montage, c'est une vraie photo. Une vraie photo. C'est une photo qu'on a prise à la plage. On était en. Bref, on faisait un truc. Donc, ouais. C'est pas. Non, c'est une vraie photo par contre. Voilà. Ouais. 24 heures. 24 heures. Voilà. Il y avait un nuage chelou. Ouais, un nuage qui dit 24 heures. Ouais, on a bien bossé sur le. Ce sera mon premier live de 24 heures. Ouais. Non, c'est pas à Châtelet. C'est après. C'est après. Après. Non, 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 c'est pas. Non, mais non, canard, c'est vraiment pas un poisson d'avril. Non, non, ça. Ah non, putain, j'aurais jamais dû le poster aujourd'hui. Non, 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 non. Alors, Madame, je vous jure. Non, non, mais en vrai. Non, c'est vraiment. C'est bon, c'est un vrai truc. Oh, non, putain, j'aurais jamais dû l'annoncer le 1er avril. Non, non, attendez, c'est un vrai truc, je suis super fier. Je suis super. Non, 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 mais c'est vrai. Alors, je n'aurais jamais dû l'annoncer aujourd'hui. Alors, je vais annoncer demain. Ah putain, les gens vont croire que c'est un 1er avril. Merde. Je vais attendre demain. Et demain, quel jour? Le mercredi? Ouais, je peux peut-être le poster. Madame, je vous jure, vous avez la ref. Bon, merci en tout cas. Bon, je cut une demi-heure. Je grignote. Et puis je relance. Ok? Bande de beaux gosses? Hein? Ou alors je cut pas. Eh, ou je cut pas? Eh, on cut. Eh, je cut pas! Ou je cut pas? Ah, si, remarque, si. Ça, je vais aller faire pipi. Oui? Je cut pas? Si, je cut pour le replay, ce sera plus simple. Allez, je cut, je reprends dans une demi-heure. À tout à l'heure, les beaux gosses. Ah, on va faire un arrêt. Je vais vous envoyer sur une autre chaîne, je suis un fou, moi. Et après, vous revenez. Hein. Alors, attends, qui est en live là? Qui est en live? Il n'y aurait pas quelqu'un de. C'est quoi ça? Ah, c'est bien ça. Je regarde, je regarde. Je vous lis, je vous lis. Oh, attends. Oh, si, 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 si. On a été raid, je crois, il y a quelques jours, quelques semaines, par un streamer qui fait du jardinage. Oh là 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 là, il est en plein rempotage, je sais pas quoi là. C'est un jardi stream. C'est du jardinage sur Twitch. Ah, c'est nouveau ça. Incroyable. Oh bah c'est ça qu'on fait. Attends, attends, attends. Je l'avais follow exprès en me disant, il faudra que je lui rende la politesse. Eh. Jardinage. Il a les mains dans la terre là, c'est incroyable. Il a l'air super cool. Voilà, bah, je m'étais mis ça de côté. Jardi stream. C'est pas Jardiland, c'est Jardi stream. 99 viewers. Bam! Allez, vous allez l'aider à planter des trucs là. C'est bizarre ces petites plantes vertes là. Qu'est-ce qu'il plante là? C'est un peu louche légale ça? Je sais pas trop. C'est parti. À tout de suite. On se retrouve dans une demi-heure. Hasta luego!
J'ai pas entendu l'alerte de raid.
Vous êtes un grand malade mental. Oh.
C'est le rendez-vous des glandules
ou quoi?
Malade mental.
J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Est-ce que